Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible.
Salut, c'est Gauthier Zimmermann. Il y a quelques années, j'ai décidé de changer de métier et de devenir product designer. Quand j'ai pris mon nouveau rôle, j'avais des doutes et des questionnements sur mon choix. J'ai alors rencontré des designers de tous horizons pour apprendre de leur parcours et de leur expérience. C'est grâce à leur histoire que j'ai pris confiance en moi. Je me suis nourri de leur expérience pour progresser dans mon métier. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute!
Thomas, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode des Design Journeys. Merci beaucoup de m'accueillir chez Tiga pour enregistrer l'épisode, ça me fait plaisir de t'avoir et de me préparer à te poser plein de questions sur le métier de Head of Product Design dans des grosses boîtes. Mais avant de commencer à parler de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, salut Gauthier, merci de m'inviter. Je suis super content de pouvoir parler de tout ça. Donc Thomas Vidal, 39 ans, bientôt marié. Voilà, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que j'ai commencé comme UX designer et maintenant comme sur des postes de management, lead, head of, VP, etc. Voilà, ça fait 15 ans que je fais du design, ça fait 6 ans que je suis chez Tiga et j'accompagne maintenant les équipes dans leur vision, leur organisation et leur culture design.
Super. Tu l'as dit, ça fait bientôt 15 ans que tu fais du design. La question est toute simple, comment t'en es venu déjà à faire du design ?
Alors, déjà, comme tu peux l'entendre avec mon accent, ça vient de Toulouse et du sud de la France. Donc, je suis allé jusqu'au bac à Toulouse. Et après, à Toulouse, donc, je suis rentré à l'université Paul Sabatier, où en premier lieu, j'ai commencé à faire une licence d'informatique. J'étais très geek à l'époque. Moi, l'objet que j'adorais, démonter les PC. Voilà, c'était la grande époque de ça, etc. Et puis, j'ai connu Apple en 2008 à la sortie de l'iPhone. Et j'ai eu un iPhone dans les mains et je me suis dit, attends, c'est ultra intéressant. Je pense que l'avenir de l'informatique, c'est ça et ça me plairait de bosser là-dedans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Toulouse, historiquement, tout ce qui est en lien avec l'ergonomie et les IHM, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas du UX designer trop, on parlait plutôt de ça, ça se faisait dans l'aviation énormément. Donc, je suis rentré à l'École nationale d'aviation civile. Où j'ai fait en fait un master 2 diplôme d'ing sur ces problématiques là d'ergonomie des IHM et donc j'ai eu mon diplôme et j'ai perduré là-dedans et donc j'ai commencé après si tu veux sur la région toulousaine à faire de l'UX design, on parlait beaucoup d'ergonomie des interfaces pour une société qui était une société de conseil SS2X qui s'appelait Exakis, qui existe toujours d'ailleurs. Donc voilà, j'ai commencé comme ça si tu veux en grande partie.
Ok, trop bien. Du coup, tu as couvert déjà une partie des questions que je voulais te poser, mais du coup, ça veut dire que toi, tu t'es spécialisé dans le design de l'aviation civile, enfin, ou de l'aviation,
alors,
ou c'était...
C'est vrai que mon diplôme était très axé sur les problématiques, en fait, beaucoup d'accessibilité, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur les cockpits d'avion,
okay.
Et notamment par rapport à la catastrophe du Mont-Saint-Odile qui avait eu, je crois que c'était en 78-79, enfin, c'est fin, début des années 80, et donc en fait, si tu veux, dans l'aviation, on bossait beaucoup sur, par exemple, le pilote est en état de stress. Il est en train de se crasher. Quel est son champ de vision ? Est-ce que son champ de vision ? Est-ce qu'il entend encore des bruits, etc. Parce que le Mont Saint-Odile, le crash du Mont Saint-Odile historiquement, je ne sais pas si tu connais l'histoire.
Non.
En fait, donc c'est un avion qui a tapé. Il y a peu de visibilité qui a tapé sur une montagne. Et en fait, donc l'alarme avait résonné. Et le pilote était tellement stressé, si tu veux, que son champ de vision s'est rétréci et il ne voyait pas ni entendait ce qui se passait. À cause du stress. Donc en fait, tous les systèmes d'aviation et de sécurité derrière ont été changés par rapport à ça. Donc du coup, historiquement, c'est des sujets qui ont beaucoup été traités du côté de Toulouse, parce qu'il y a Airbus, etc. Donc j'ai commencé dans ça, si tu veux, dans comment concevoir des interfaces sécuritaires, mais aussi innovantes. Par exemple, je travaillais sur, c'était en 2009-2010, hein, sur un écran tactile entre le pilote et le copilote, et comment on pouvait interagir en se passant, par exemple, les circuits électriques, la sécurité. Comment tu agis dans un avion sur un écran tactile avec un avion qui bouge. Donc, il faut faire des gestes particuliers, etc. Et comment on peut collaborer entre pilote et copilote ?
Ouais, j'avais une question là-dessus, parce qu'en préparant l'émission, je me suis dit, c'est ouf comme sujet, mais du... tu vois, on parle généralement dans le podcast de, d'interview utilisateur, de se mettre à la place de la personne. Bon... c'est rare d'aller dans un cockpit d'avion,
ouais,
et d'être dans un avion en plein vol.
Ouais.
Donc toi, tu faisais quoi ? Tu étais dans des simulateurs pour voir comment
alors,
ça se passait ?
Alors, on avait des simulateurs, on faisait pas mal d'interviews aussi avec des pilotes pour essayer de comprendre les situations. On avait des modélisations, ils sont assez forts là, dans l'aviation là-dessus, des modélisations de ce qui s'était passé pendant les crashs, les boîtes noires, etc.
Ouais.
Donc à travers ça, on arrivait à travailler sur ce sujet-là. Et donc mon sujet de fin d'études, c'était pour la société Intuilab, qui faisait des écrans tactiles, notamment pour Dassault, et donc pour les Falcon 2000, en fait, si tu veux.
Et... Toi, dans les Falcon 2000, t'es tout seul, non ?
Alors, ça dépend. T'en as où t'as un pilote et un copilote, en fait.
Ok. Mais ouais, je trouve le sujet incroyable parce que, du coup, c'est peu commun, tu vois, surtout avec les personnes avec qui je discute. Et la question que j'ai envie de te poser sur ce truc-là, c'est une fois que t'as eu des retours utilisateurs, ou en tout cas que t'as discuté, que t'as de la data et tout ça, comment tu t'assures que ça fonctionne bien ? Parce que un simulateur, ça reste quand même... Un simulateur, t'es pas
bien
dans
sûr.
Des conditions du réel.
Bien sûr.
Tu parles de stress, c'est difficile de simuler le stress.
Ouais,
tu vois,
bien sûr.
Parce qu'on parle souvent dans les tests utilisateurs de se dire, je sais pas, si tu es dans une pièce comme toi et moi, là on est dans une salle de réunion, c'est pas comme quand t'es sur ton téléphone, allongé dans ton canapé en train de tester des choses. Donc là, comment tu... En fait, j'ai envie de dire comment tu t'assures que ce que vous faisiez, ça marchait bien et que ça allait marcher surtout dans les conditions du réel.
Alors, on fait comme dans l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on prototype beaucoup et on teste beaucoup. Et en fait, ouais. Ça a mis énormément, ça continue après moi, hein, c'est-à-dire que ça a mis en temps, je crois que c'est 4 ou 5 ans pour être mis réellement dans les Falcons. Ouais. Par contre, de souvenir, donc je travaillais avec, à l'époque, Joël Viala, Yannick Leroux, qui était chez Dassault et chez Intuilab. Et ça a été mis en prod et ça a été mis dans les Falcons. Par contre, c'est sur un nombre d'années... c'est sur 4-5 ans, tu vois, donc c'est important. C'est testé des centaines de fois dans des conditions différentes et c'est beaucoup, beaucoup itéré. Donc, en fait, c'est des gens qui, quelque part, faisaient beaucoup de product management déjà et de product design. 10 à 15 ans, c'est beaucoup ça dans l'aéronautique. Hein. Moi, j'ai mon beau-père qui travaillait sur les hélicoptères aussi d'Airbus, notamment l'H160. Et c'est pareil, ils testent dans toutes les conditions possibles et imaginables. Donc, ils ont la culture de ça, si tu veux, dans l'aéronautique.
Okay. Mais ça veut dire qu'ils prototypent énormément... Enfin, je veux dire, c'est plus compliqué vu que c'est des produits physiques.
Ouais, alors c'est du prototypage en simulateur. En fait, il y a plusieurs étapes. C'est, okay. Tu vas déjà prototyper en digital, tu vas prendre le retour, tu vas tester plein de trucs, tu vas voir si ça va ou ça va pas. Tu vas le faire dans des simulateurs, dans des conditions réelles. Et après, ils ont des pilotes qui testent des nouveaux concepts, etc., qui sont là pour ça. Et typiquement, ils testaient après. Donc je sais que ça a mis, je crois que c'est ça, ça a mis 3 à 5 ans à peu près à être mis en place.
Ok. Mais... Vas-y.
Non, juste pour finir, c'était ultra intéressant parce que, en fait, ces problématiques-là, par exemple, il y a au-dessus du Falcon, tu as ce qu'on appelle l'overhead panel. C'est des centaines de boutons, de commandes, etc. Et tout ça a été mis en place après dans les écrans tactiles aussi. Donc, il y a beaucoup de travail sur la hiérarchie de l'information, comment on collabore entre pilote et copilote. Et c'est des sujets, c'est marrant, que j'ai traité après dans des boîtes comme Docto, Decat, Litchi, etc. Presque 10 ans après, j'ai envie de dire. Donc, dans l'aviation, ils sont très matures sur ces sujets-là quand même. Hein.
C'est marrant que tu parles de ça parce que... Ça me fait penser à Tesla qui a sorti, tu sais, son énorme écran là en plein milieu de la voiture.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Mais où les gens disaient, mais en fait, je suis perdu parce qu'il n'y a plus de vrais boutons physiques. Mais là, du coup, tu faisais pareil dans un avion.
On faisait pareil et on testait. Il y a des boutons qui étaient des boutons sécuritaires. Je te parlais tout à l'heure de l'aspect sonore et visuel. Il y a des boutons qu'on n'a jamais pu mettre à ce niveau-là, d'un point de vue digital. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une priorisation, une hiérarchisation en fonction de la gravité. Il y avait ce qu'on appelait Q1, Q2. Enfin voilà, il y avait plein de gravités, si tu veux, qui étaient prises en compte. Donc, quand t'es ergonome un peu UX, tu démarres sur ces sujets-là, c'est passionnant en fait.
Ah, tu démarres direct dans le
vide. Ah ouais. Et d'ailleurs, le retour après à la réalité, quand tu rentres dans une SS2I, tu vas traiter du B2B, etc. Ça devient un autre sujet derrière.
Ah, très bien, merci pour la transition. là, cet écran tactile pour les avions, c'était en stage.
Ouais, c'était un stage de fin d'études, en master 2, diplôme d'ingénieur.
Et du coup, la question que j'aurais te poser, c'est pourquoi t'as pas continué sur ce projet ? Parce que en te voyant là, t'as encore des petites étoiles dans les yeux. Ça a l'air de te...
Alors, je me suis accompli dans mon rôle du UX designer à cette époque-là réellement. Et en fait, j'avais l'opportunité soit de rentrer dans une boîte de conseil. Soit effectivement de rentrer dans l'aéronautique chez un équivalent, donc c'était, je sais plus le nom, Aéroconseil ça s'appelait à l'époque, ça a changé depuis. Donc et en fait, t'es quand même, quand t'es designer, t'es à la frontière entre l'art et le, et la science. Et en fait, l'aéronautique, c'est trop la science. C'est-à-dire que ça te bride énormément. C'est beaucoup des contraintes de sécurité, etc. C'est à un point où ça devient fou.
C'est du fonctionnel pur.
Exactement. Et je me suis dit, je vais pas faire ça 40 ans. Bon, après, t'as une vision quand t'es jeune, tu te dis, tu vas faire ça toute ta vie, c'est foutu, etc. Donc, je me suis dit, non, je tiendrai pas. Je tiendrai pas à faire que ça. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais régresser d'un point de vue UX, c'est-à-dire je vais aller moins loin sur ces sujets, sur des sujets passionnants, mais je vais voir plus de choses.
Okay.
Donc, c'est pour ça que je suis parti plutôt dans un cabinet de conseil en premier. Ouais.
Ok. Ce qui t'amène chez Exakis.
Exactement, ouais.
Où tu as été pendant très longtemps, pendant 7 ans à peu près, et
ouais.
Tu as fait UX designer puis lead product designer.
Exactement.
Et pour faire simple, tu faisais quoi là-bas ?
Alors au début, il faut se remettre dans le contexte, arrivé de l'iPhone 2010, j'ai connu les Windows Mobile, etc. Donc on était vraiment à cette époque-là. Je faisais des prototypes sous Blend, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un très très grand outil de prototypage chez Microsoft qui était assez évolué, où tu faisais du drag and drop de composants et tout, donc il y avait... mais qui était que pour Windows Mobile, parce que c'était un cabinet qui bossait beaucoup sur ça, et à Toulouse on était beaucoup Windows. Donc j'ai fait des missions, si tu veux, où il fallait refaire des intranets, où il fallait faire des prototypes pour de l'agroalimentaire, par exemple. Donc des sujets intéressants, et en fait, il y avait... J'étais le seul UX designer de la boîte.
Ouais,
ouais, c'était un groupe, on était 300, il y avait que moi. Donc on me mettait sur des missions intéressantes quand même. Beaucoup de B2B, hein, mais...
Mais du coup, t'es arrivé en tant que junior comme premier UX designer.
Oui, oui, et en fait, c'était, on me vendait comme à l'époque, comme si tu veux, ben voyez, nous, pour une SS2I, un cabinet... On est différent parce qu'on est un UX designer. Quoi. Toulouse, c'était vraiment le truc qui marchait. Donc, en fait, j'ai été un peu la promotion et on gagnait des projets grâce à ça. Et j'en faisais un peu. C'était du design thinking, hein, mais c'était le. Je veux dire, la tristesse du design thinking, c'est-à-dire que tu faisais des super trucs, tu faisais un peu discovery, delivery, et après, tu avais le décideur qui arrivait. Merci, au revoir. J'ai beaucoup bossé pour des groupes comme Airbus, Total, etc. Où il y avait l'envers du décor. Quoi. Ouais. On faisait beaucoup de prototypage et le résultat n'était pas ce qu'on prototypait généralement.
Du coup, ça veut dire qu'on te filait une mission, tu remplissais le brief, tu donnais et tu savais pas ce qui se passait.
Non, c'est exactement ça. On faisait quand même pas mal d'interviews, etc. Donc ça, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière et ça, okay. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc beaucoup de recherches, interviews, tests proto, etc. Après, ce qui était terrible, c'est que c'était pas implémenté derrière, tu vois, où t'avais une version qui était risible par rapport au travail qui avait été fait, même l'investissement financier. Donc ça, c'était quelque chose qui me devenait pénible à terme et c'est comme ça que l'idée m'a commencé à me trotter, de me dire il faudra sortir et partir de Toulouse pour aller plus loin.
T'es quand même resté 7 ans.
Oui, bah oui, parce que j'ai commencé ma carrière tranquillement, j'ai appris plein de choses. Après, il y a eu une inflexion au bout de 5 ans. C'est qu'en fait, j'ai été, pareil, donc j'étais le seul UX designer du groupe. Donc je montais souvent sur des projets à Paris, à la Défense, etc. Mmh. Et en fait, j'ai rencontré Tika, ça s'est passé comme ça. On était sur un gros projet, en fait, c'était la modernisation des SAMU de France avant le Covid. Il faut savoir qu'il y avait eu la H1N1 en 2011-2012, à peu près, je crois, c'était la période, c'était ça. Et donc, le gouvernement français à l'époque avait mis 250 millions d'euros sur la table, parce qu'il dit, si jamais un jour on a une vraie pandémie, on est dans l'incapacité au niveau des SAMU de la traiter. Donc déjà, tu vois, à l'époque, on pensait à ça et on parlait ça. Donc, je suis rentré sur ce grand projet. Et en fait, c'était Tiga mener le product management de ce projet à l'échelle. Et okay. On s'est rencontrés comme ça, en fait.
OK.
Donc, c'était génial parce que j'ai... La problématique, c'était en France, il y a 100 SAMU. Et tu as 5 ou 6 logiciels très différents. Et l'idée, voilà. Mais vraiment différents de A à Z.
Ah, mon Dieu.
Des métiers qui diffèrent totalement parce que tu ne fais pas du SAMU à Biarritz comme tu peux en faire en montagne, tu vois, à Courchevel. Ça diffère énormément, en fait. Donc, j'ai fait le tour de France en train, je précise à l'époque, voilà, je préfère le préciser, et j'ai visité une trentaine, quarantaine de SAMU, j'ai fait 250, 300 interviews pour essayer de dire voilà quels sont les problèmes qu'on peut avoir dans les SAMU aujourd'hui. Donc, je faisais beaucoup de l'ergonomie à la fois du poste de travail et du digital et faire des recommandations pour aller vers un logiciel commun qui aujourd'hui est implémenté, qui s'appelle le SI SAMU, qui est implémenté dans une dizaine, quinzaine de SAMU déjà en France maintenant.
Okay.
Là, c'est pareil, c'est des projets, tu vois, à grande échelle et long terme. Et j'ai commencé à travailler avec Tiga qui s'occupait du product management et je me suis dit, c'est génial le product management, le design est au milieu de la boucle. On n'est pas juste ce que je vivais préalablement, tu vois, à faire du prototype et merci, au revoir. Donc j'ai enchaîné sur ça.
Ok. J'ai juste une question avant de passer
sûr.
À Tiga là-dessus. C'est, il me semble que tu as monté aussi un petit peu toute l'équipe, enfin la partie UX dans un.
Alors, c'est en fait, monter, oui, c'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, je faisais l'offre, tu vois, je montrais l'offre, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, ça s'est greffé, ça s'est créé comme ça. Après, ça restait à l'échelle du groupe, c'était tout petit, hein, on était 5, 6, 7, tu vois, c'était pas.
Ah, mais
c'était pas énorme.
C'était un bon début.
Ouais, c'était un bon début, et puis j'avais plusieurs designers, ou si ça m'eut, j'avais plusieurs designers qui étaient de mon cabinet et on travaillait main dans la main avec eux. C'était pour Magellan Partners, donc c'était super intéressant. Et après, je reste à Paris parce que j'ai rencontré ma femme sur ce projet-là. Voilà.
Donc, ok, bah, très bien. Bon, on va parler de TIGA tout de suite, comme ça on parlera après d'organisation et tout ça en long, en large, en travers. Du coup, tu rejoins TIGA. Ouais. Déjà, est-ce que tu veux bien, pour les personnes qui ne savent pas, nous représenter TIGA?
Bien sûr. Alors TIGA, c'est un cabinet de conseil aujourd'hui qui est spécialisé en product management, product design et en product marketing. On fait beaucoup aussi de la stratégie organisationnelle aujourd'hui. Et donc, historiquement, c'est un cabinet qui a 10 ans, qui a commencé par introduire le product management en France, à dire voilà, aujourd'hui, si on veut faire des produits qui ont de l'impact, on va sortir un petit MVP qui va avoir de l'impact, qui va avoir de la valeur utilisateur, et puis on va faire grandir, etc. Donc on accompagne les entreprises en mettant des PM, des PRD, des PMM dans les équipes, et après sur des postes de lead, sur des postes organisationnels, et maintenant on rentre dans le conseil organisationnel stratégique des grands groupes aussi, notamment pour les accompagner et les aider là-dedans.
Ok, très bien. Et toi, du coup, quand tu arrives en 2018, c'est quoi ton rôle ?
Alors moi j'arrive en 2018, ils m'ont rencontré sur projet SysAMU, donc je rentre comme un consultant, comme le deuxième PRD de la boîte. Il y avait Mathias qui était le premier qui venait d'arriver. À l'époque c'était beaucoup du product management, et donc on est les premiers product designers. Et notre objectif, bah, c'est de commencer en premier à faire des belles missions, entraînantes sympas, où on a de belles histoires à raconter pour que ça se développe, et qu'après on aille de plus en plus loin sur des postes d'importance. C'était l'objectif.
Très bien. Et donc, du coup, tu commences chez AXA ?
Exactement. Je commence chez AXA, où je rentre dans l'équipe de Cyril Magnéto. C'était un incubateur à l'époque qui s'appelait l'Accélérateur. Et en fait, chez AXA, ils faisaient des design sprints. Voilà, c'est une petite équipe qui, tous les 15 jours, faisait un design sprint. Donc, j'en ai fait une trentaine, même plus, hein, je crois. J'en ai fait même plus que ça.
Je crois qu'il y a une cinquantaine.
Ouais, je crois que c'est en tout. Il y en a un sacré paquet. Et en fait, tous les 15 jours, on faisait un ou plusieurs design sprints. Des fois, il pouvait y en avoir deux en même temps. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'en fait, on acculturait AXA sur ces sujets-là. Donc, on prenait un sujet d'assurance.
Ouais.
Et pendant 5 jours, on était en mode design sprint avec des stakeholders, etc. On sortait un proto la même semaine, on le faisait tester. Deuxième semaine, on faisait un proto 3 jours, on retestait, etc. C'était terrible d'un point de vue nerveux.
Ah ouais, non, mais j'ai une question là-dessus. Mais déjà, du coup, si je comprends bien, c'est que l'accélérateur AXA existait déjà, c'est ça?
Ah oui, tout à fait, ouais.
Et c'était déjà dans leur ADN de faire des...
En fait, c'était TIGA qui l'avait lancé avec eux. Ça faisait 6 mois déjà. D'accord. qu'on bossait là-dessus. Et là, après, on commençait à aller un peu plus à l'échelle parce qu'en fait, on bossait avec des partenaires. On a bossé avec Uber, c'est-à-dire comment mettre de l'assurance dans les Uber. On a bossé avec HSBC, okay. Donc avec Mercedes. On est allé en Allemagne faire un design sprint avec les équipes de Mercedes. Donc c'était génial parce que là, quand t'es designer, là, tu vois, c'était concret. Je faisais un passage pour moi, là, c'était super.
Mais alors, du coup, ouais, j'ai une question à poser là-dessus. Enfin, plusieurs questions. Quand tu dis c'était concret, c'est-à-dire que. Enfin, là, pour Uber, HSBC, etc., je comprends. Mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est toi qui sélectionnais le sujet ou on venait.
Alors, en fait, on avait l'équipe de Cyril qui sélectionnait un sujet avec des responsables d'AXA. Ouais. Voilà. Et après, donc, nous, on partait sur une problématique, un pain point qu'on avait pu observer avec eux, voir avec ces stakeholders s'ils étaient OK. Et après, on essaie de trouver des solutions, prototyper quelque chose et proposer quelque chose d'actionnable à terme pour les équipes d'AXA. Okay. Donc, il y a plein de petits sujets qui ont eu lieu et après, qui ont donné vie, qui ont été intégrés dans les équipes produits en second temps. En fait.
C'est justement la question que j'allais te poser. Parce que j'ai reçu il y a quelques temps dans le podcast Jean-Baptiste Caloya
de BPI France.
Et lui, il a bossé à la BNP au service innovation. J'ai plus tout à fait le nom exact, mais en gros, son but c'était d'anticiper, de faire de la conception, de réfléchir à des trucs de ouf pour BNP, et rien n'est jamais sorti. Et du coup.
Alors nous, tout n'est pas sorti. Par contre, il y a des concepts qui ont été sortis très clairement et qui ont été repris à la fois par AXA, qui ont été repris, je sais, du côté de Mercedes. Voilà, il y a des concepts qui étaient repris concrètement dans les équipes. En fait, on servait un peu de premier niveau de discovery pour que ça soit réutilisé derrière par les équipes produits. On parle d'une époque où on était en 2018, si je ne dis pas de bêtises, et donc les équipes produits commençaient à se créer, et chez AXA, c'est encore en cours. Hein, donc c'était... Mais on a eu pas mal de conseils qui ont été réutilisés parce qu'on faisait des partenariats avec des grands groupes quand même.
Donc. Ok, stylé, mais... Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est, par contre, 50 design sprints en un an, ça doit te cramer.
On est partis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait ça un an, c'était super. On a énormément appris d'un point de vue design, d'un point de vue compréhension du besoin, de tout ce qui fait vraiment la force du designer. Après, personne ne voulait rester parce que l'ambiance était super, mais t'es épuisé.
Ça doit être un sacré carnage.
Ouais.
Si t'avais un truc à retenir de cette année-là, c'est quoi ?
J'ai énormément appris en tant que designer, souvent on pense avoir la solution sur beaucoup de choses et se dire tiens, il faut rester énormément humble. J'ai appris énormément à prototyper aussi. On faisait avec Flinto, etc. à l'époque, je me souviens. Et 5 jours, ça va vite. Et par contre, ce qui était extrêmement intéressant, c'était que ça nous. Ça, on s'est dit, on n'a pas besoin de se mettre aussi tout le temps des limites en permanence, parce que finalement, en 5 jours, on arrive à créer, à concevoir quelque chose de vite. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé beaucoup d'inculquer dans les équipes aussi, de manière générale, après, sur des postes de management, en disant, on peut rapidement prototyper, montrer. Donc ça m'a servi dans ma culture, si tu veux, du prototypage, du MVP, etc. Mais c'était, j'en garde un souvenir formidable.
Ouais, j'imagine, c'est juste que c'est intense.
Ah ouais, c'est intense, c'est très intense.
Du coup, après, tu passes sur une autre mission, tu deviens lead product designer chez Splio,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, Splio, qui est une entreprise de marketing automation, où là, c'était un petit peu plus différent. C'était une entreprise qui était en train de monter un peu sur le design, sur des produits B2B. Donc, c'était intéressant parce que là, on était en mode produit, dans une petite équipe. Donc, c'est les autres contraintes. C'est déjà, c'est un peu plus différent, le rythme est plus lent, on essaie de mettre en place des choses, un petit design système, etc. C'était intéressant. Ça m'a appris, j'ai commencé à l'idée aussi en mode product, donc ça m'a appris... Ça m'a appris tout ça. Parallèlement, je suis monté en management chez Tigao aussi. Donc, c'est une période que j'ai trouvé de transition,
ouais,
entre ce qui est arrivé juste après et ça. Et ça m'a permis aussi un peu, de, en toute honnêteté, de relâcher, parce que ce qu'on avait, ouais, vu chez AXA, c'était intense, quoi.
Et quand tu dis que ça te permettait de monter en management chez Tigao, c'est une question que je voulais te poser suite à, ouais, ton parcours. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu... On te prépare à devenir manager pour être head of ensuite, ou c'est gérer des gens alors, chez Tigao ?
Alors, en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que moi, là où je serais toujours reconnaissant pour ce qu'a fait Tigao, c'est qu'il y a une... Généralement, dans les cabinets de conseil, etc., on te fait évoluer en fonction de la mission, etc. Et je veux dire, il n'y a pas forcément une stratégie sur le long terme. Là, on te responsabilise au fur et à mesure. Donc, on va te mettre sur des missions endurantes, on va te mettre sur des missions de lead. Il y a une continuité dans ce qu'on te propose. Et c'est pareil chez Tigao, c'est-à-dire que tu vas commencer à manager des personnes. Alors, tu manages différemment quand tu manages dans un cabinet. Hein. Mmh. Tu vas essayer de voir les parcours et faire grandir les personnes dans le parcours de Tigao et les aider potentiellement dans leur mission de tous les jours. Mais tu ne peux pas rentrer dans la mission avec la personne, hein. Donc c'est autre chose. Par contre, il y a une continuité. Et donc, on t'accompagne dans la montée de ton expérience, et surtout le jour où une belle opportunité arrive. Ben, on te la met dans les mains, on dit est-ce que tu sens que tu vas y aller, etc. Et tu le prends ou tu le prends pas, et on te juge pas dans les deux cas. Donc ça, c'est quelque chose. J'ai une ascension chez Tigao qui est folle en 5 ans, parce qu'on te donne les responsabilités et on fait tout pour te mettre à l'aise et prendre cette responsabilité.
Et du coup, je te pose la question maintenant. Je pense que tu l'as vu, j'avais reçu Vanessa Guillotto,
ouais,
dans le podcast,
ouais, ouais, ouais,
où elle donc, qui est passée chez Tigao entre 2018 et 2020.
Ouais, ouais,
elle,
je me souviens très bien. Ouais.
Ouais, où elle a décidé de partir de Tigao, ouais, parce qu'elle estimait qu'il n'y avait pas... elle n'arrivait pas à monter une équipe, ou
ouais,
en tout cas que ça ne fonctionnait pas pareil. Du coup, toi, ça fait beaucoup plus longtemps que tu es là et tu me parles de ce parcours et du management en interne. Comment ça se passe, du coup, pour justement créer un parcours au sein de Tigao d'évolution, alors qu'en même temps les personnes ne sont pas chez Tigao, tu vois, la question que je me pose, c'est la structuration, la, ouais, cohésion d'équipe, mais là au sein de Tigao on parlera des...
Alors il y a un truc qui est formidable chez Tigao et qui est aussi exigeant, c'est que en fait tu mets l'investissement que tu veux, mmh, et mine de rien ça c'est pas facile. Donc en fait nous on nous dit, si tu réussis ta mission et tu la fais bien, c'est très bien. Et après, si tu vas plus loin, bon, t'as des bonus, t'as tout ce qu'il faut pour, hein, mais on te laisse te responsabiliser, prendre des sujets, les faire avancer, les faire grimper. Donc, ça peut être extrêmement exigeant parce que ça demande beaucoup de travail, etc. Mais on te donne cette possibilité-là. Après, en fonction de tes contraintes personnelles, de ta vie, etc., tu peux ou pas le prendre. Donc voilà, et moi je garde un très bon souvenir de Vanessa, on échange souvent encore de manière générale ou indirecte sur des meet-ups, c'est marrant. Mais voilà, je pense que c'est aussi ce modèle-là peut convenir à pas à tout le monde. Et après, elle était aussi arrivée dans une période où on n'a pas eu les missions qu'on a eues derrière, un peu plus head-off, etc. aussi.
Ok, mais et donc du coup, toi, ça veut dire que là... Du coup, à ce moment-là, comment tu... Est-ce que tu as un espèce de rôle de manager, et du coup, ça veut dire que tu dois créer un parcours d'évolution au sein de Tigao ?
Alors, on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que on appelle un TDM, c'est-à-dire que grosso modo, tu commences comme junior confirmé. Après, tu peux manager des gens ou devenir ce qu'on appelle un TL, c'est-à-dire quelqu'un qui va proposer du contenu à l'extérieur, pousser des concepts, le ops, etc. Et tu continues à grimper. Après, tu vas devenir ce qu'on appelle principal, après partner. Donc, en fait, tu as une évolution par rapport au cabinet, par rapport à l'impact que tu peux avoir au niveau du cabinet. Et donc, nous, on prépare les personnes à monter là-dessus. Et on les aide sur ça, mais sur les missions aussi qu'elles vont faire.
Okay.
Elles vont commencer à être confirmées senior, après lead, après potentiellement head-off, ou on va dire non, je veux rester senior. On s'adapte au parcours de chacun, en fait.
Okay.
On ne pousse pas à faire du management pour du management, en fait. Hein. On en a plein chez nous. J'ai Fred Dardion, j'ai plein de profils comme ça, Antoine Volant, qui sont des profils d'experts dans leur domaine. Quoi. Ils ne sont pas forcément là pour manager, ils n'ont pas envie de manager. Ça se comprend très bien, hein.
Chouette. Je comprends tout à fait, ouais, c'est clair. Du coup, je le laisse de côté parce que je sais que vous en avez parlé dans tes talks sur... Enfin, t'en as parlé, vous, parce que vous étiez plusieurs, sur les talks chez Decathlon. Et du coup, tout ce qui est structuration d'équipe et tout ça, on en reparlera après. Mais pour faire la transition justement vers le rôle de Head of, t'as été Lead Product Designer chez Splio et après, t'as été Design System Manager chez Doctolib.
Ouais.
Chez Decathlon. Chez Doctolib. Comment se fait cette transition du... Lead Product Designer a un truc très spécifique parce que le design.
Alors je te dis, c'est Tiga, c'est de l'opportunité. Et donc qu'est-ce qui se passe? Premier confinement, comme tout le monde arrête beaucoup de missions chez Tiga, on l'a subi de plein fouet hein, parce que les prestataires, c'est les premiers voilà qui ont sauté. Hein.
J'imagine.
Donc il y a eu un mois de mars, d'avril où ça a été comme ça. Moi je continue à faire la mission à 50%. Et puis on a eu une opportunité chez Doctolib où ça faisait un moment qu'ils voulaient mettre en place le design system, ils n'y arrivaient pas. L'équipe design commençait à grandir fortement. Et moi, j'avais fait déjà des design systems légers chez Splio, etc., mais jamais à cette échelle-là et à ce niveau-là. Par contre, je m'étais beaucoup renseigné sur le domaine. Et donc, j'ai passé un entretien avec le head of à l'époque du design chez Doctolib. Et puis, j'ai dit, voilà, moi, en toute honnêteté, j'en ai jamais fait, mais voilà ce que je ferai, comment je le ferai, etc., comment j'impliquerai les parties prenantes, voilà.
Okay.
Et donc, on m'a donné la mission. Et donc, ça a commencé comme ça, voilà. Ça a commencé comme ça. Et ça, c'est ce c'est ce que j'aime chez Tiga, c'est qu'on te donne, et tu verras que les opportunités sont souvent comme ça. On donne l'opportunité, tu présentes comment tu veux le faire, et puis go.
Et du coup, tu t'y es pris comment? Parce que je vois exactement cette période-là, puisque j'ai enregistré un épisode avec Mickaël juste à cette période-là. Je crois que tu venais d'arriver,
parce qu'on en parle
un tout petit peu pendant l'épisode, ça remonte. Comment tu t'y es pris? Parce que Docto, c'était déjà énorme, ils étaient déjà immense.
Il y avait une trentaine de designers à l'époque, donc c'était Mickaël qui gérait l'équipe et qui m'a donné le mandat. On était en remote, puisque la politique de Doctolib, c'était le remote pendant le Covid à ce moment-là. Bah écoute, on y est allé, quoi. On a fait une phase d'analyse, on a vu aujourd'hui ce qui n'allait pas, j'ai fait un leadership avec la tech, c'est-à-dire que...
Ouais.
Main dans la main, on a composé une équipe et on a travaillé sur ça. Et après, toutes les semaines, on faisait des ateliers avec les designers. Quels sont les composants les plus importants, les manques qu'on a aujourd'hui? On a structuré une première version, on a vérifié que techniquement elle était faisable, on l'a QA, on l'a testé, on l'a sorti. Et en fait,
mais après, il faut l'intégrer dans ce qui existe déjà.
Ouais, mais c'est l'idée, c'était ça. C'est-à-dire que sous cette phase d'analyse, c'était de dire quelle était la dette technique qu'on a, qu'est-ce qu'on priorise en premier pour qu'on ait un résultat d'ici 6 mois, réel.
Ouais.
Quels sont les premiers composants qui servent le design et qui sont faisables techniquement? On met derrière des techs pour pouvoir le développer en parallèle. Et ça s'était passé comme ça, avec les équipes tech de Docto. Et ça avait été, j'en garde un souvenir formidable. Toute une équipe design qui était derrière, qui voulait avancer. Les ateliers se passaient super bien. Tout le monde était ravi, quoi.
Royal. Et du coup, ça veut dire qu'au bout de 7 mois, à la fin de ta mission, tout, entre guillemets.
C'est ce qu'on avait expliqué. À l'époque, on avait fait un Rex qui avait pas mal cartonné parce que nous, on avait fait une vidéo sur YouTube de 1h30. On avait expliqué tout ce qu'on avait fait d'A à Z. Du voilà, comment s'y est pris, en toute honnêteté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Ça avait cartonné parce qu'en fait, on avait expliqué, quoi, tout simplement. Et donc, on a sorti une première version avec 25 composants, avec un 0.8, validés techniquement, qui ont été implémentés dans ce qu'on avait de produits chez Doctolib. Et après, l'équipe, c'était Jérôme qui est aujourd'hui en charge du... Jérôme Benoît qui est en charge du design system, qui était à l'époque designer pour l'équipe, qui après a repris le... qui a repris ça et qui a continué. Donc,
du coup, la question que je voulais te poser, c'est au bout de 7 mois, la mission, elle s'arrête.
Ouais.
Mais est-ce que dans ce cas de figure, par exemple, des fois, tu peux proposer de vouloir rester
ça se passe, en toute honnêteté, ça se passe souvent comme ça. Ça se passe souvent comme ça. Et ça se passe. Ouais, ça s'est passé à chaque fois comme ça, même à vrai dire. mais moi, ça fait partie du job. C'est-à-dire, moi, ce qui me plaît aujourd'hui chez Tiga, c'est de mettre en place quelque chose dans une entreprise. Que ça prenne vie et que ça vive derrière. Ça, c'est super important pour moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour faire une mission, merci, au revoir. C'est de voir après des équipes s'approprier ça et que ça continue sans moi. Donc moi, je suis ravi de ça. Ça me plaît. Je vois plein de contextes différents, de problématiques différentes et je trouve que ça apporte du piment à mon métier. Donc je suis content.
Ok, trop bien. Et donc du coup, après cette mission-là, tu vas devenir Head of Design chez Litchi. Et la question toute simple, c'est déjà genre, comment se passe cette transition? Comment tu passes de...
Alors... C'est jamais facile parce qu'en plus on rentre à ce moment-là dans tout problème existentiel pour chaque designer et designeuse. Je suis expert dans un domaine où je suis senior, je vais passer dans du management à l'échelle, est-ce que ça a du sens ou pas, etc. Moi j'avais la chance préalablement donc, de faire tout ce que je t'ai dit Et j'avais le sentiment de m'être accompli sur ça, que finalement, ça avait été bien, ça avait été intéressant. Et je me souviens de mes débuts chez Exakis et du fait que j'avais pas ce contexte-là, j'avais pas tout ça. Et de me dire, si je peux rentrer dans une équipe, mettre ce contexte-là pour que les gens puissent s'épanouir et ce que j'avais pas eu à l'époque, ils puissent l'avoir, je trouve que ça a du sens, en fait. Donc, c'est un peu, alors je vais toute proportion garder, c'est pas comme avoir des enfants, mais c'est à un moment donné, tu t'es accompli, t'as envie de transmettre le bâton, et ça rentrait complètement dans ma carrière et dans mon avis en ce moment-là.
Ok, trop intéressant. Du coup, pour la suite, j'ai décidé un peu de tout packager d'un coup, ouais. Parce que t'as été Head of Design chez Litchi, ensuite t'es devenu VP Digital Design chez Decathlon,
ouais.
Et aujourd'hui t'es Head of Product Design dans le groupe Accor.
Tout à fait.
Donc je me suis dit, vu que c'est trois fois le même rôle, on va essayer de tout compacter et j'ai essayé de voir...
C'est pas les mêmes enjeux, mais je comprends ta problématique.
C'est pas les mêmes enjeux, donc je vais essayer de spécifier à chaque fois. Mais du coup... Quand tu arrives, là tu vas pouvoir spécifier, mais quand tu arrives dans une boîte en tant que head of ou VP, ouais. Finalement, on attend quoi de toi ? En quoi consiste ton rôle ? Quelle est ta mission ? Est-ce que c'est la même chose dans les trois boîtes ou pas ?
Alors, pas du tout. Et en fait, j'arrive dans des contextes différents. Des fois, je peux arriver en remplacement de quelqu'un, des fois, je peux arriver en départ de quelqu'un. Voilà, c'est souvent dans ces circonstances-là, dans des équipes qui sont quand même en difficulté. Ça se passait souvent le rôle. Hein. C'est pas du management transition, c'est j'arrive généralement avec un mandat pour mettre en place une vision, une organiculture. Hein. C'est vraiment ça. Litchi, c'était dans le cadre d'un revamp, le revamp qui est sorti depuis. C'était pour accompagner cette équipe. Decathlon, j'étais arrivé à l'époque pour coacher le VP qui est en cours, qui est parti la semaine où je suis arrivé.
Ah oui, ok.
Voilà, et donc on s'est dit, écoute Thomas, on va passer de 20 à 120, donc il va falloir que tu te débrouilles et tu fasses de la CX et du scale, ok. Et chez Accor, par contre, donc, c'était suite à ce que j'avais vécu chez Decathlon, où les équipes de Myrem et Lara, que côté design, avaient besoin de mettre en place une vision, une organiculture dans une équipe qui était un peu en difficulté. Un head of qui voulait partir, et ça voilà, l'idée c'était de prendre le relais et faire en sorte que ça tourne.
Ok, et du coup, quand tu arrives chez Decathlon, chez Litchi, chez Accor, comment ça se passe ? C'est quoi le...
T'as peur déjà, parce que quand tu passes de ce que tu faisais à toujours un échelon supplémentaire ou des contextes quand même assez différents, t'arrives dans un contexte où en premier lieu, et ça c'est extrêmement important, c'est faut mettre l'humain au centre. Moi quand j'arrive dans une équipe, on est là pour bâtir quelque chose ensemble, on va faire une vision commune, un projet et on avance ensemble. Moi c'est vraiment l'humain que je mets au centre, hein. C'est encore une fois quand je pars, mon plaisir c'est de voir les équipes récupérer tout ça en autonomie, être heureuse, avancer, créer des belles choses. J'ai vu des cadres qui est sorti là, peu Vision Pro, les équipes de Simon côté design system, etc. C'est formidable de voir ça, tu vois. C'est des choses comme ça qui m'animent. Donc, on est dans ça. On est dans quelle est la vision qu'on veut mettre en place, comment on veut construire. Des cadres, je vais pas refaire le Rex, mais tu vois, des cadres, c'était ça. Hein, c'était, on va grandir de 20 à 120. Soit on fait que recruter, soit on crée une vision, une culture, ouais. Et on avance ensemble.
Mais du coup, comment tu crées cette vision, cette culture ?
Enfin, alors, c'est très simple, c'est à un moment donné, t'arrives, t'as un contexte, t'as des personnes. Chez Litchi, ça peut être deux, chez Decathlon, ça peut être 8 leads, et chez Accor, t'avais 5 leads qui l'étaient pas, qui n'avaient pas le mandat pour. Tu crées les conditions pour. Donc, tu travailles avec ces personnes-là clés pour avoir une vision. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quels sont nos objectifs ? Comment on s'organise ? Comment on met les product designers dans les équipes ? Mais on a des équipes transverses en termes de ops, de design system qui tournent. Comment derrière on met une culture design, comment on synchronise entre designers, avec les PM, la tech, enfin tout ce qui a du sens et de la construction d'équipe. En fait, l'idée c'est de se dire, on a des gens bons, des fois ça passe pas, il y a des gens qui on a dû sortir, etc. Hein, des choses comme ça. On a des gens bons, comment on leur donne toutes les conditions pour réussir ?
Voilà. Comment on leur donne toutes les conditions pour réussir ?
Alors comment on leur donne toutes les conditions pour réussir ? C'est ça, c'est vision, orga et culture, c'est crescendo, c'est beaucoup de relationnel avec les autres entités. Moi je travaille énormément, que ce soit chez Accor ou chez Decathlon ou même chez Litchi, c'est exactement pareil. À Litchi, je travaillais avec la CPO, avec Camille qui était quelqu'un de formidable. On m'amène à la main dans la construction. Qu'est-ce que la discovery du delivery ? Comment on le met en place ? On le teste sur des équipes et après on le développe et on le met en place à l'échelle, tu vois ? C'est comment on replace le designer au centre. Et c'est toujours pareil, hein, c'est le premier élément, c'est la vision commune. Derrière, c'est qu'est-ce qu'un product designer ? Comment on fait de la discovery du delivery ? Et ça diffère hein, entre les entreprises et même entre les équipes hein, dans les entreprises. Hein. C'est tu mets un cadre global et après, les équipes s'accaparent ce cadre et en font quelque chose. Et tu le testes sur des équipes, d'autres équipes se l'accaparent et elles le font grandir et elles le font naître. Et Decathlon, c'est ça. Decathlon, c'est on a travaillé sur l'ops pour dire comment on fait la discovery du delivery, les parcours de carrière, on en a parlé tout à l'heure, on a mis en place les parcours de carrière chez Decathlon, comment on bosse avec le PM et la tech, tu vois, même les parcours, le salaire pour chaque type de profil, etc. On met tout ça sur la table, on le construit ensemble.
Mais tu vois, quand tu dis ça, quand tu me parles de mettre en place une vision commune, de mettre en place des salaires, par exemple,
ouais.
Finalement, toi, t'es extérieur à la boîte, tu es payé par l'entreprise, ouais, pour apporter un cadre, mais à quel moment tu... Enfin, tu vois, il y a quand même des contraintes budgétaires ou des contraintes de boîte.
Bien sûr.
Comment t'intègres ça dans ta réflexion ?
En fait, il faut se dire que je suis Tiga, hors de ma mission, et dans ma mission, je suis Decathlon, je suis Accor, je suis Litchi. Donc j'arrive comme un head-off qui devrait être chez Decathlon, chez Litchi, qui a les contraintes de Decathlon, de Litchi ou de Accor, et qui, dans ce contexte-là, doit faire en sorte qu'une équipe qui est en difficulté ou qui n'est pas bien ou qui n'a pas tous les outils pour y arriver alors qu'on a des gens brillants, leur donner tout ce qu'il faut pour arriver. Et donc, s'il faut aller convaincre du product management, un codir, un CEO, etc., on fonctionne comme ça pour y arriver. Et c'est toujours en trois grandes phases, la vision, des objectifs communs, l'organisation, des product designers qui travaillent main dans la main avec des product managers et la tech et le marketing, le business, etc., et des équipes transverses pour délivrer des rituels communs, et après la culture, et tu développes ces trois aspects-là.
Ok, et donc du coup, concrètement, la vision, toi, tu l'établis comment ? Pour les gens qui nous écoutent, par exemple.
Ouais, une vision, c'est quoi ? C'est en tant que designer chez Decathlon, en tant que designer chez Accor, qu'est-ce que le design chez Accor ? Et donc, on travaille avec les designers qui sont au cœur des équipes, avec les équipes e-commerce, avec les équipes loyalty, par exemple, chez Accor, avec les équipes B2B, et on va définir une phrase symbolique de ce qu'est le design. Ça, c'est la première étape.
Okay.
De cette phrase, on va en faire des vrais objectifs. Et l'idée, c'est comment le design a de l'impact dans l'entreprise. Donc, on va en faire des objectifs reliés aux objectifs business des équipes.
D'accord.
Et donc, en fait, de cette phrase symbolique qui est la vision du design, tu vas créer des OKR pour toutes les équipes, même l'équipe design system, hein, design ops, etc. Des OKR pour toutes les équipes, des objectifs communs, et on va s'articuler autour de ça. Et derrière, tu mets une organisation et une culture pour y arriver.
Ok, donc du coup, après, comment tu mets en place cette organisation basée
L'organisation, c'est que j'interviens généralement dans des entreprises qui sont en product management quand même, ou qui sont en train de faire la transformation. Hein. Ce n'est pas le cas partout. Chez Decathlon, ce n'était pas le cas. Chez Accor, ce n'était pas le cas partout. Il y a des équipes qui sont matures, d'autres non. Donc, nous, l'idée, c'est systématiquement d'aller défendre ce modèle-là, qui est de dire, on a besoin d'avoir des designers au cœur des produits, mais on a besoin d'avoir des designers qui soient transverses aux produits pour avoir une expérience globale 360 de A à Z. Ouais. Donc l'orga, on va mettre des designers dans les équipes, on va mettre des leads à des éléments clés pour qu'ils gèrent la carrière des designers et qu'ils gèrent la transversalité des produits. On va avoir un lead e-com par exemple, ou deux, hein, en fonction des périmètres, etc. Ça, c'est l'organisation au cœur. Et après, sur l'organisation transverse, je parlais design system, design ops, content, etc. Pareil, on va avoir des leads qui vont avoir leur propre OKR, qui vont gérer et faire grandir les équipes. Donc c'est organisation, on a des designers au cœur des équipes produits qui font des beaux produits et des personnes qui sont là pour assurer une transversalité. Chez Decathlon, on appelait ça des staffs. Chez Accor, on est en train d'appeler ça comme ça aussi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas là pour manager les équipes, mais qui sont là pour assurer que quand tu fais de l'iOS, quelle que soit l'app, tu as une continuité d'expérience, que tu utilises bien le design system, etc.
Ok. Et du coup, après, comment la culture découle de tout ça ?
Après, la culture, c'est... on a une vision, on est d'accord avec les responsables, on est d'accord sur la vision, on a l'organisation pour y arriver. La culture, il va falloir y aller et la créer ensemble. Donc, on va prioriser ce qui est le plus important. Dans les entreprises, ça va être comment faire de la discovery du delivery. Mmh. On va commencer à pousser quelque chose. On va aller voir avec nos homologues du product management et la tech pour avoir de la discovery et delivery commune. Ça, c'est super important. Ça se fait toujours en groupe, sinon, tu n'y arrives pas. Et après, que ça soit inscrit pour tout le monde. Par exemple, truc très bête, mais chez Decathlon, on a passé énormément de temps à avoir des fiches de poste. Ça paraît archaïque, qu'est-ce que je dis hein. Mais des fiches de poste. Qu'est-ce qu'un product designer de la discovery jusqu'à la fin du delivery ? Quel est son périmètre ? T'es pas obligé de respecter tout à 100%, hein. Mais on te donne un cadre, comme ça on te donne une légitimité dans les équipes, et on n'avait pas des designers qu'on envoyait dans les équipes, et qui se retrouvaient juste à maqueter.
Okay.
Ils étaient vraiment de la phase de discovery jusqu'au delivery.
Donc c'était identifié par l'ensemble de la boîte,
exactement.
Les personnes qui travaillent avec les designers.
Exactement, et c'est souvent l'une des parts les plus importantes de mon métier, elle est là, elle est bien évidemment d'animer l'équipe, d'être au cœur de l'équipe et de la faire avancer, mais de tout ce que je promets aux équipes, que ça soit mis concrètement pour l'ensemble de la boîte et pour tout le monde. Et en fait, on travaille beaucoup sur ça. Moi, je travaille beaucoup avec des CPO. Chez Decathlon, on travaille avec la CEO directement. Enfin voilà, on met en contexte, en fait.
Ok. Et du coup, là, je vois bien que la culture, c'est ce qui permet d'infuser tout le reste au sein de la boîte.
Ouais.
Mais est-ce que, par exemple, la vision, la phrase que vous avez établie, par exemple, c'est quelque chose que vous dites en interne, que tu mets en avant?
Ouais, c'est par exemple, ben là par exemple chez Accor, on a une vision. Cette vision, elle a des objectifs, etc. Tous les 3 mois, on revoit nos OKR. Chaque année, on a une nouvelle vision qu'on construit. On a même poussé le concept encore plus loin, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'imposer ou d'industrialiser un modèle. C'est de permettre aux équipes d'avoir un cadre pour bien s'exprimer et être innovant. C'est important ça de le préciser. On n'est pas là pour industrialiser le design, on est là pour les laisser être innovants et bien bosser. Et donc, côté e-com, ils ont leur propre vision design qui découle de la vision design globale.
Ok.
Tu vois, on va à ce niveau-là après, c'est-à-dire qu'on donne notre autonomie aux équipes, mais on met un cadre en premier lieu pour qu'elles puissent s'exprimer.
Ok.
Et ça, tu vois, c'est, on revient en 2010, j'avais tellement pas ça à l'époque et j'en souffrais tellement que de voir ça, de le mettre en place et de voir une adhésion des équipes et que c'est construit et fait par les équipes, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on le déploie pas à l'échelle, c'est-à-dire qu'en premier lieu, on le fait sur une ou deux équipes qui est moteur, les autres le regardent, elles voient que c'est un succès, que ça se passe bien dans leurs équipes, donc elles veulent l'intégrer après, ça se passe toujours comme ça.
D'accord.
Ben, ça, c'est formidable.
Donc du coup, tu dirais que, parce qu'aujourd'hui, tu as géré une équipe de 120 personnes chez Decat, il me semble que chez Accor, vous êtes à peu près 35.
Ouais, c'est ça, 35-40, c'est ça, ouais, tout à fait.
Gros groupe, grosse boîte, mais tu dirais que comme vous l'avez mis en place par équipe, c'est quelque chose que n'importe quelle boîte pourrait faire.
On a fait exactement comme ça chez Litchi, mais on l'a fait de manière plus léger. C'était léger, on était 5, donc forcément c'était beaucoup plus léger. On n'avait pas des OKR de partout, etc. Mmh. Mais on avait une vision, on avait les designers qui étaient au cœur des équipes produits, on avait un design system transverse, on avait quelqu'un qui essayait de faire le lien. C'est juste que tu mets la bonne intensité selon ton contexte. C'est pas je prends un bouquin et je sors le bouquin. Même si y a plein de choses à prendre dans les livres, chaque contexte est différent. C'est ça que j'adore dans mon métier, si tu veux. C'est qu'à chaque fois, c'est différent. Et on ne le fait pas de la même façon. Et on apprend aussi des erreurs, hein, parce qu'on en a fait plein On en a fait plein. Mais en fait, c'est pareil. C'est juste l'intensité qui diffère et la taille et l'importance des choses.
Okay.
Et que tu arrives dans une entreprise, des fois, où tu en as, où, par exemple, ben, sur la partie ressources humaines, c'est ultra bien développé. Par contre, tu as des leads qui ne se parlent pas. Parce qu'ils n'ont pas les rituels pour, etc.
Oui, donc bien s'adapter au contexte de boîte.
C'est en premier, j'arrive, c'est 15 jours d'immersion, j'interroge tout le monde. Et en toute honnêteté, les gens ont peur au début parce qu'ils disent « il arrive, le gars, il va être là pour virer tout le monde ». Pas du tout, hein, généralement. Ça m'arrive très très peu et jamais au début. Moi, au début, je préfère mettre les conditions pour s'exprimer. Et après, soit les gens adhèrent à ça et se sentent bien, soit ils se sentent pas bien. Mais je suis pas dans ce... Mais ouais, les 15 premiers jours, c'est phase d'analyse et de recherche totale.
Ouais.
Les gros manques qu'on a aujourd'hui, la souffrance de l'équipe, ça c'est quelque chose qui m'importe énormément. On est mal vu par le product management, on utilise mal le design system, on n'est pas bon là-dessus. Et après, on catégorise, on priorise et on y va. Et on fait au fur et à mesure, comme un produit. C'est une équipe produit, l'équipe design.
Totalement. Et vu que tu parles de ton équipe, moi j'aime bien savoir un peu... Quels sont les rôles que tu cherches en premier? Je sais que ça dépend du contexte de chaque boîte, mais par exemple, du coup, chez Litchi, vous étiez 5. Est-ce que tu as fait un peu grossir la boîte et tu as cherché, je sais pas...
Alors, on n'a pas trop grossi. Par contre, ce que je vois sur les 3 types d'entreprises, puisqu'en fait, on est sur du... Alors, encore, c'est un très grand groupe, hein, mais on est sur 3 types d'équipes pour moi. C'est une petite, moyenne équipe et une grande équipe. C'est quand même toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on cherche très vite quand même des leaders et des gens qui sont là pour responsabiliser où on va les chercher. Parce que Et c'est très difficile à trouver en plus en product design. Je vais être dur là-dessus. Chez Catlon, j'ai fait passer plus de 200-300 entretiens. Chez Accor, j'en ai fait passer on prend 5 à 10% des gens, pas parce que parce que je suis mal luné, mais mais parce que historiquement, pour un designer, c'est être créatif, c'est manager ou avoir un leadership, c'est pas inné pour un designer.
Tu peux un peu détailler pour toi ce que ça veut dire un leadership pour un designer?
Leadership, ça veut pas dire j'arrive, j'ai la solution, tu fais comme ça, merci, au revoir. C'est comment, en fait, un peu ce que je viens de te dire à l'échelle plus haute, c'est-à-dire comment j'arrive à mettre les conditions au sein d'une équipe, on a une vision commune, on avance ensemble et on arrive à faire en sorte que le design ait la bonne place. Et comprendre, et ça c'est très important, je pense que c'est vraiment la différence, alors je vais pas dire entre un bon et un mauvais chasseur comme dirait les inconnus, mais aujourd'hui, ce qu'on regarde beaucoup, nous, par exemple, dans les recrutements, c'est quelqu'un qui va comprendre que le design va exister et que l'équipe va avancer parce qu'elle est parfaitement intégrée avec le product, la tech et le business. Et qu'on est vu comme un partenaire de confiance. Ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que des équipes aujourd'hui ou des leads qui font leur truc dans leur coin, si ça marche pas, c'est normal en fait. C'est normal. Donc on va chercher, si tu veux, des profils qui ont envie de construire un groupe, qui ont envie d'avancer avec le groupe, qui sont, moi je suis très démocrate, je fais partie de ces gens, moi, où on va, chacun va avoir une idée, faut trancher à un moment donné, mais on écoute tout le monde et on avance ensemble. Je cherche pas des gens qui disent voilà ce qu'est le design de demain, voilà ce que je pense est ma conviction et point final. Il faut avoir une conviction, il faut savoir trancher, mais il faut savoir emmener une équipe et la faire avancer et faire grandir les gens au sein de l'équipe. Dire à quelqu'un, excuse-moi, je finis juste ça parce que c'est super important, dire à quelqu'un, ça tu vois, je pense que tu le fais mal, ou ça t'as pas, tu prends pas assez l'avis des autres, ou pour faire avancer les gens, il faut aussi leur dire la vérité. Et c'est dur, hein. C'est ultra dur.
Et donc du coup, avant de parler de l'évolution des personnes, ça veut dire que toi, avant n'importe quelle qualité, on va dire design, tu cherches quelqu'un qui est capable de mener une équipe, enfin aider une équipe.
De plus en plus, et de collaborer avec différentes parties prenantes. C'est-à-dire qu'avant, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui ont dû me voir en entretien chez Tiga et qui doivent se dire, putain, Vidal, il laissait pas passer quand on parlait des personas après la phase de conception. Avant, j'étais très sur la technique. Par exemple, quand j'ai commencé les recrutements chez Tiga, je faisais partie des gens qui axaient beaucoup sur enfin, qui faisaient passer les entretiens. C'était beaucoup la technique. Moi, je voulais discovery, delivery, persona,
double diamant. Allez.
Voilà, idéation, prototype. Comment tu fais ton prototype? Est-ce que tu intègres bien les stakeholders? Est-ce que tu fais des tests utilisateurs? 5 tests utilisateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Quantically, quelle est la différence? C'est pas parce que tu as fait 5 tests utilisateurs que tu as la vérité sur le marché. Enfin, voilà. J'étais même pénible là-dessus. Et là, maintenant que je suis passé sur ces postes-là, c'est important la technique, hein. C'est important d'avoir ces bases-là, mais déjà je trouve qu'en école, de plus en plus, on a des super designers et designers qui ont ces bases. Mais ce qui fait la diff aujourd'hui, c'est ta capacité à amener des personnes qui comprennent rien à ton métier ou qui pensent que tu fais juste que
du
gris-gris. du gris-gris, parce que l'UI c'est un vrai métier et il y a des gens qui font des trucs extraordinaires, ouais. Donc c'est un vrai métier. À comment tu emmènes ça, tu facilites et tu crées la cohésion pour arriver à construire un produit. À comment, en fait, ton équipe, c'est toi le designer, mais c'est l'équipe quelque part qui va designer et toi, tu es juste le garant que le résultat est bon au final. Okay. Donc, on regarde beaucoup les soft skills aujourd'hui. Moi, en entretien, je regarde beaucoup les soft skills. C'est devenu un élément incontournable. Incontournable.
Mais du coup, là, tu vois, je comprends totalement l'idée d'avoir des leads et de pouvoir embarquer les gens, mais si t'as que des leaders dans l'équipe, du coup, ça va pas forcément avancer. Il y a quoi d'autre comme rôle que vous recherchez, tu vois, enfin, c'est...
On recherche de tout. C'est-à-dire qu'on va rechercher... En fait, on recherche des gens qui sont déjà veulent collaborer les uns avec les autres. Ouais. Ça, c'est la première pierre. Okay. Après, on va rechercher des UX, des gens qui sont vraiment très bons dans la conception d'expérience. D'autres qui sont plus bons dans, effectivement, concevoir des expériences en termes d'UI qui sont entraînantes et qui sont belles, mais qui comprennent qu'en amont, il y a un product manager, il y a la tech, il y a des contraintes techniques, etc. Tu vois, on cherche toujours ça, quand même.
Oui, donc c'est quelqu'un qui comprend à peu près tout le processus, mais qui a un point
spécialité.
Fort.
Ouais. Et c'est pour ça qu'on met du content derrière, on est content designer. En design system, on va avoir des gens qui sont très bons dans la construction technique des composants et d'autres qui sont bien meilleurs en UI et qui veulent faire émerger une patte artistique. Enfin, on va mixer ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas un morphotype. Par contre, on cherche des gens qui veulent collaborer et construire des choses ensemble. Ça, c'est essentiel.
Mais ça marche très bien dans les grosses équipes, puisque tu peux...
Et oui et non, parce que...
Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
Regarde, on va prendre un petit exemple. Tu te retrouves chez Litchi, t'es le seul designer.
Ouais.
Moi je me souviens d'Iris Garnotel, qui, si elle nous écoute, qui a fait un travail extraordinaire chez Litchi. Elle se retrouvait seule face à des équipes qui ne comprenaient pas son métier. Tech et designer. Si t'es pas bon là-dedans, si t'es pas bon pour aller à tous les rituels des équipes tech, leur faire comprendre ce que c'est ton métier, ce que tu apportes, comment on construit un parcours, comment derrière on le mesure, l'impact ça que... T'as pas sorti un concept venu nulle part, mais que t'as eu un cheminement et t'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Mmh. Alors que tu peux être un designer de haut niveau, hein. Tu peux concevoir des trucs, ouf. Mais si t'es pas en capacité à l'expliquer, à travailler les bonnes personnes à l'instant T, à le justifier, tu vas dans le mur. Et de plus en plus. Combien t'as de designers qui te disent « De toute façon, la tech, ils nous écoutent pas. » En fait, c'est plus complexe que ça. Dans les faits, c'est juste qu'on n'a pas la même façon de discuter, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes objectifs. Et quand t'arrives à comprendre un peu plus l'autre, quand même, généralement, ça se passe toujours bien. On a toujours des cas particuliers.
Oui, bien sûr.
Mais on y arrive.
Ok, donc ça reste quand même des personnes qui savent maîtriser tout le scope et qui après se spécialisent en fonction de la
taille
de la boîte.
Exactement. Et encore, quand on dit maîtriser, ça reste quand même... c'est comprendre qu'il y a un début, il y a un avant, il y a un après. Hein, tu vois, on ne demande pas... Mais par contre, ça aujourd'hui...
Qui est capable en fait de comprendre ce qui se passe.
Oui, autour de lui, qui est dans un environnement et qui va comprendre ce qui se passe pour y arriver. Après, ça reste encore une denrée rare sur le marché. Je vais être très honnête là-dessus. Chez Decathlon, on a beaucoup galéré. Beaucoup.
Ça tombe bien, la question d'après, c'était... vous êtes passé de 20 à 120 chez Decathlon en 18 mois. Alors comment vous avez fait? Parce que c'est enfin...
Alors même plus, parce qu'en 18 mois, ils sont 200 aujourd'hui. Donc moi, quand je suis parti, on était 150. Comment on est passé? Alors déjà, on l'a fait en parallèle. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de recruter pour recruter. En gros, moi, honnêtement, quand je suis arrivé, j'ai pris le poste le premier jour. Ce que je raconte dans le Rex, c'est une vérité. Je reçois 160 mails où on m'a dit: Thomas, on a besoin dans l'équipe PM d'un product designer. Donc remets-toi dans le contexte. J'étais lead d'une toute petite équipe chez Litchi. Je me retrouve dans ça, dans un contexte où donc mon prédécesseur était parti, où l'équipe était mal. Enfin, j'ai pas dormi honnêtement les premières semaines. Par contre, je me suis.
Le pompier.
C'était terrible. Non, même. Alors justement, il y avait deux façons de me voir. Soit je fais le pompier et je recrute comme je peux et voilà.
Oui, enfin, je veux dire, si tu fais le pompier dans le sens, t'essayes d'éteindre les feux.
En fait, finalement, on n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, vous allez attendre. Je suis désolé, à un moment donné, vous allez attendre. On va mettre ça en place en premier lieu, rapidement, et on va prendre des priorités, là où il faut aller, là où on sent que ça a de l'impact, et on va construire les choses rapidement.
Tu les détermines comment, ces priorités ?
Priorité, par exemple, c'est... on a parlé un peu de l'impact du design, on en reparlera, mais les priorités pour un designer, quand il veut être vu et bien vu au sein de l'entreprise, c'est là où le business est, on va dire les choses comme elles sont. Et le business, il peut être financier, mais pas que. Hein. Il peut être sur l'éco-conception, enfin, on en parlera, il peut être sur l'éco-responsabilité, enfin, sur toutes ces choses-là. Donc, on va se focaliser là où on peut avoir de l'impact très rapidement et on va construire cette équipe. Et au début, c'est moi qui fais les recrutements, mais après, quand tu as un lead qui a confiance, que tu as de l'accompagner sur les premiers recrutements, etc., ça se fait à l'échelle, si tu veux. Ça se fait à l'échelle. Mais tu mets les bonnes bases sur cette... Je suis chiant avec ces trois mots, mais ils sont tellement importants. Sur cette vision, sur cette orga, sur cette culture, tu mets les bonnes bases, tu recrutes les bonnes personnes un petit peu en dessous.
Oui, parce qu'en fait, après, ces personnes vont infuser en fait.
Ouais, ça va infuser. Alors, et ça m'est arrivé d'aller chercher un designer dans le fin fond d'une équipe, et c'est moi qui me suis occupé du recrutement. Hein. Tout n'est pas idyllique. Hein,
oui, bien sûr.
Mais l'idée, elle est là. C'est comment on arrive à avoir le bon état d'esprit, la bonne culture, et à l'infuser après dans les équipes pour que ça marche en autonomie.
Et justement, enfin, tu vois, là, je vais surtout prendre l'exemple de Decat parce que 200 designers, si je me souviens bien, il y a 200 plateformes différentes, 200
ouais,
produits. 200.
À l'époque, il y avait un peu plus de 200 produits numériques. Quoi. Ouais.
Entre ce qui est visible par du B2B et en fait tout ce qui est en interne.
Exactement.
Mais ce que je me dis, c'est comment tu, même si, enfin, vu ce que tu as dit, c'est, tu as une première équipe qui s'approprie la vision, la culture, etc. Puis après, ça infuse petit à petit. Comment tu fais pour, j'ai envie de dire, garder une cohérence entre les produits, entre les équipes? À quel moment tu acceptes de dire il n'y a pas de cohérence? Tu vois, c'est...
Alors, il y a tout. Alors, ça, c'est un sujet qu'on est en train de traiter chez Tiga énormément. C'est le fameux sujet de la CX. Parce que la CX, on entend ce mot depuis 10 ans de tout et n'importe. Enfin, ouais, on voit de tout sur ce qu'est une CX, etc. Et on a bossé sur ça chez Decat. On bosse ça dans d'autres boîtes là aussi, là, actuellement. L'idée. Il faut partir du principe qu'on va être là pour donner un cadre. Donc, dire quand il y a autant de produits numériques, etc., dire qu'on est partout et qu'on est en capacité à avoir... C'est une utopie et dans un premier temps, c'est faux. Par contre, c'est comme on a pu faire dans l'orga design, on va le faire à un niveau au-dessus. C'est-à-dire, on va dire quelle est la vision de ce qu'on veut faire en termes de CX. Derrière, on va avoir une équipe qui va essayer de mettre en place des customer journées, etc., dans des équipes types. Et ça va déployer. C'est en fait juste un niveau stratégique au-dessus du design, si tu veux. Mmh. Et donc on fait ça comme ça de manière générale, c'est-à-dire qu'on a cette équipe là qu'on monte et qu'on construit pour s'assurer d'avoir une cohérence à 360. Et nous, en opérationnel, on va derrière vérifier qu'on utilise bien le design system, qu'on a ces rituels entre les leads pour assurer. Moi par exemple, chez Accor aujourd'hui, j'ai Valdine et Julia, si ils nous écoutent, toutes les semaines elles ont un point de synchro, pas long. Qu'est-ce que sur ton périmètre tu fais quoi côté e-commerce? Voilà ce que je fais sur le mien. Est-ce qu'il y a des continuités d'expérience? Est-ce qu'il faut remonter à des product managers qui a des discussions de continuité d'expérience? Est-ce qu'on intègre bien le design system, etc.? Et on bosse comme ça. Donc tous ces petits rituels, ces petits sujets, on va les infuser dans les équipes pour que ça tourne bien en fait. Mais il y a un niveau d'abstraction au-dessus pour dire voilà ce qu'est la vision d'une customer experience à terme.
Donc là encore, j'ai l'impression que tu te bases vraiment beaucoup sur les leads qui vont faire cette espèce
de... Ah ouais, c'est... On construit avec eux. Hein. On construit avec eux cette base-là. eux, en fait, par exemple, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que chez Decathlon, nous, on faisait beaucoup de questionnaires aussi. Et chez Accor, on sonde les équipes. Il n'y a pas besoin de faire les questionnaires, on n'est que 40. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai un rituel où j'ai les 40 personnes dans la salle pendant une heure. Mm-hmm. Il est fou, le gars. Pas du tout. On a fait un miro, très simple, cadencé à la minute. Et chacun, pendant une minute, tous les 15 jours, présente sur quoi il est en train de travailler grossièrement.
Waouh!
Et c'est cadencé, les équipes sont fans parce que ça permet à tout le monde de montrer le travail qui est en train d'être fait.
Ouais.
Ça permet au lead de voir sur quoi on est en train de travailler, etc. Et ça donne la visibilité pour tout le monde. Ça, on l'a pas fait chez Decat, par exemple. Tu vois, on l'a fait chez Accor. Parce que l'état d'esprit le valait, parce qu'il y avait une attente des équipes, etc.
Okay.
Et c'était une demande des équipes. Donc, si tu veux, on s'adapte. On s'adapte aux besoins, etc. de manière générale, en fait.
Ok. Et il y a d'autres rituels comme ça que vous mettez, que ça soit chez Decat, que ça soit chez...
Ouais, alors les rituels, bon, je disais, déjà, il y a des rituels entre les leads qui sont extrêmement importants.
Mmh.
Quand on fait, à un moment donné, de la discovery delivery dans des équipes de 7 ou 8 designers sur l'e-com, etc., il y a des design reviews menées par le lead pour, pas casser, etc., mais pour voilà ce qu'on proposait aux différents designers dans cette expérience, dans cette CX, et avoir un semblable de cohérence pour que ça soit cohérence. Est-ce qu'on utilise le design system et si on l'utilise pas, pourquoi? Mon design system, depuis Doctolib, je le répète, hein, c'est 80-20 chez moi, donc on n'est pas là pour industrialiser non plus le design. On est là pour, quand il faut pas réinventer la roue, on la réinvente pas, ça sert à rien. Par contre, quand il y a des nouveaux besoins, des nouveaux usages, pas de souci, on crée quelque chose de nouveau et on avance. Donc on met, tu vois, ce type de rituel dans la discovery et delivery des équipes.
Ouais.
On a des rituels de groupe où tout le monde est réuni, où on va avoir des sujets d'innovation, on va avoir ce que je viens de dire, le point tous les 15 jours de rituel commun. On va avoir, des fois, on peut avoir des binômes entre les équipes aussi pour échanger, pour avancer sur des sujets communs. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour que les équipes soient connectées. Et on fait surtout beaucoup ce qu'on a... Alors, je faisais beaucoup ça chez Decat et on essaie de le mettre en place chez Accor, c'est des stories, c'est-à-dire des réussites au sein d'une équipe qu'on va aller pitcher à d'autres designers, à d'autres équipes, ou même côté product management, côté tech, côté marketing. Quand je suis arrivé côté design, quand on a mis en place chez Accor la vision et l'orga, il y a une instance chez Accor qui s'appelle le TGIF où tu as 500 personnes d'Accor qui sont les grands responsables de Accor, côté digital. Je suis allé présenter la vision, l'orga, etc. à tout le monde. Comme ça, après, les gens, ils viennent nous voir, ils disent « Attends, c'est bien ce que vous avez fait, c'est intéressant. » On a même des gens qui viennent nous piquer les templates Alors, je disais Miro, c'est FigJam, mais là, le template que je te parlais, on a des équipes d'autres, de sujets qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout dans le design et digital, qui viennent nous piquer les templates. Donc, on communique aussi énormément, si tu veux, en interne au sein de l'équipe et avec les autres équipes. C'est du lien, en fait. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est du lien.
Bah, ouais, je vois ça. Et il y a un truc où, dans une de tes conférences sur Decathlon, tu disais que, par exemple, il y a des rituels, mais des fois, les équipes ne sont pas forcées de le suivre, etc.
Ouais.
Du coup, comment tu... Et encore, c'est un peu cette question-là, tu vois, de faire du lien. Pourquoi... J'entends que chaque équipe doit s'adapter, mais du coup, à quel moment tu te dis... tel rituel, c'est ok que ça soit passé à la trappe ou pas. En gros, tu vois, j'ai un peu cette question de me dire comment tu fais pour
avoir le juste milieu entre milieu. Donner de la
entre uniformiser et en même temps donner de la latitude.
Ça diffère entre les équipes et entre les attentes business. C'est une très très bonne question, ça. T'as des équipes où il va pas y avoir besoin de le pousser. Encore une fois, moi, je parle de cadre. Je mets un cadre. On met un cadre, et ce cadre, après, les équipes le prennent ou elles ne le prennent pas. Bon, généralement, elles le prennent, mais elles l'adaptent à leur contexte, à leurs besoins.
Mais tu vois, du coup, ça veut dire que chaque équipe a son cadre, finalement. Tu as un cadre, mais
bien sûr. Nous, en fait, notre rôle, c'est de définir les limites. Mais après, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'expriment, ils innovent. Et même, en fait, on prend en compte énormément les retours aussi des équipes. Des fois, des choses, souvent même, on n'est pas top-down. Donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Des équipes qui nous disent « Ah, t'es, ben là, par exemple, j'ai un cas chez Accor. J'ai Benoît qui fait un boulot extraordinaire de customer journée en B2B, alors que les équipes sont en train de monter en product management. Ben, il a construit vraiment une CX. Il a montré comment il l'a utilisé, comment il a amené les équipes là-dessus. Ben, il a fait un Rex et là, on est en train de s'en servir pour le mettre plus en place dans le e-commerce, tu vois. Donc, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on est ouvert, on donne ce cadre, on laisse. Et en fait, quand tu responsabilises les gens, tu leur donnes un cadre qui comprennent, hein, parce qu'ils savent qu'il y a les... Et ben, ils le prennent en compte. Mais tu vois, par exemple, côté e-commerce, on n'a jamais eu de problème, parce que côté e-commerce, on sait que si on veut faire du business, de la conversion, etc., il faut qu'il y ait une continuité du point A ou du point Z. Mmh. Donc tes designers, ils le prennent en compte. Des fois, c'est pas dans leur culture et dans leur façon de faire, mais ils l'entendent, en fait. Donc ce cadre, ils le prennent, ils respectent le design system. En B2B, des fois, c'est un peu plus compliqué d'aller faire respecter un design system. C'est pas grave. Mais petit à petit, ils l'adaptent et ils le font vivre. On n'a pas le même niveau d'exigence aussi, j'ai envie de dire, en fonction de l'impact de l'entreprise. C'est, je ne vais pas demander à 200 équipes produits de faire exactement la même chose, pas du tout. C'est, et on avance comme ça, si tu veux.
Okay.
C'est des petites victoires tous les jours.
Et tout à l'heure, tu parlais de la façon dont progressent tes équipes. Donc là, je comprends bien, alors déjà, tout ce qui est, on revient dessus, mais vision, culture, organisation, ça donne déjà une bonne direction. Fiche de poste, savoir ce que tu dois faire, etc. Mais comment tu les aides à monter en compétences ? Parce que je vois bien le cadre, tu prends le cadre, tu l'adaptes, tu responsabilises, mais comment tu décides de dire bah, telle personne a monté en compétences, ou comment on l'aide à monter sur telle compétence, à évoluer, etc.
Ben, ce qui est souvent arrivé, c'est que quand tu donnes un cadre aux gens et que tu les responsabilises, tu leur fais confiance, t'en as qui viennent naturellement à toi. Alors je dis pas qu'il faut aller taper à la porte de son head of ou manager et dire voilà, je voudrais devenir lead, etc. Ça se passe pas comme ça, mais naturellement, en fait, on voit des gens émerger qui sont appréciés dans les équipes, qui ont envie d'avancer, etc. Donc, ça, on le fait. Après, là, maintenant, avec l'expérience que je commence à avoir, etc., quand même, je vais vers des gens que je sens, et des fois, je me plante. Ça m'est arrivé de mettre des gens en ligne qui, le lendemain, me disent « Écoute, Thomas, en toute honnêteté, moi, je préfère être senior. Je me sens mieux aujourd'hui d'en produire. L'idée, c'est un peu manager. J'aime pas trop ça. J'osais pas te le dire d'ailleurs. Pas de souci, c'est pas grave. »
Et tu réussis à créer cette... ce cadre de telle sorte à ce qu'on te le dise, parce que si on prend le modèle très franco-français,
ouais,
de se dire pour réussir il faut être manager,
alors
je sais que c'est pas une bonne chose, hein, mais il faut en sortir,
ouais,
mais tu vois ça coûte de...
Déjà on a parlé de la culture tout à l'heure, donc l'un des premiers travaux qu'on fait, c'est, on a parlé des TDM chez Tiga tout à l'heure, on fait pareil, on fait des parcours de carrière quand on arrive chez Decathlon, chez Accor, etc. Ça je le fais à chaque fois. Parcours de carrière, moi j'ai pris aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché. Je suis désolé de le dire, mais nos amis américains, sur ça, ils sont bons. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour un product designer confirmé, junior confirmé senior, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu manages une équipe parce que tu as envie, comme j'ai eu envie, de transmettre le bâton, d'avancer avec des équipes, de donner les conditions pour avancer. Soit tu es super bon dans ce que tu fais, tu adores ça et jamais de la vie tu voudras changer. Tu deviens expert dans un domaine staff. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans des groupes comme Airbnb, Spotify, etc. Chez nous, chez Tiga, on l'a mis en place aussi. Je vois que ça marche. Et donc, quand tu donnes ce contexte-là, ben, les gens, ils osent te dire « Non, moi, je préfère être staff. Okay. » J'ai une lead qui a été lead pendant 6 mois chez nous, chez Accor. Elle l'a fait parce qu'elle voulait voir. Elle s'est dit « Écoute, Thomas, moi, finalement, je me rends compte que ma place, c'est plus d'être staff et de m'assurer d'une cohérence globale d'expérience. » Il n'y a pas de souci.
Ça...
Et on permet le changement.
Oui, voilà, tu donnes quand même le droit de. Mais tu as une équivalence, c'est ça, si je me
souviens.
Ouais,
c'est même en salaire et tout, aujourd'hui, que ce soit chez Decathlon, chez Accor, on est sur le même modèle. On est sur le même modèle. Bien sûr, on a besoin de. Par exemple, sur le modèle américain, aujourd'hui, les experts dans des domaines, c'est des gens qui sont aussi bien payés, si ce n'est plus. Donc pas de souci.
Ouais, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que si par exemple, tu décides de devenir lead, mais que ça ne va pas, en fait, on ne va pas te faire repasser senior puis redescendre.
Non, il faut donner des passerelles comme dans la vie. Dans la vie, tu fais ça. Hein.
Oui.
Tu connais les gens qui font que ça.
Alors, tu montes et tu descends avec
toi, voilà,
parce
mais...
que là, on ne le voit pas.
Voilà, mais moi, il y a des jours, quand j'ai reçu les 160 mails, j'étais là, hein, j'étais tout en bas. Hein, ah, je peux te dire que. Donc, tu fais ça dans la vie. Donc, il n'y a pas de souci. On donne les passerelles. Encore une fois, je suis désolé, on donne ce cadre pour que les gens puissent s'exprimer. Et en fait, quand tu as des choses qui sont claires, qu'ils ont suffisamment de latitude, bah après, les gens, ils s'expriment. Et on revoit notre cadre. Quand on vient nous taper à la porte et dire là, vous êtes allé trop loin parce que le design system, il nous bloque, ben ok. On va revoir le truc.
Donc quand le cadre devient une contrainte, en fait, tu redonnes...
Il ne faut pas que ça soit une contrainte, il faut que ça permette aux gens de pouvoir... Il y a deux choses. De justifier le travail du design, parce qu'on est quand même beaucoup dans ça aujourd'hui. On doit justifier notre impact et notre travail. Donc de donner une légitimité au designer et de s'épanouir. Et qu'à un moment donné, ça ne permet plus de s'épanouir. Soit c'est minoritaire et c'est quelqu'un qui... Il y en a, hein, des artistes qui ne veulent pas rentrer dans aucun cadre. Il n'y a pas de souci, il y a plein d'entreprises pour eux, il n'y a pas de problème. Quand c'est nous, il n'y a pas de souci, on change. En fait, moi, je parlais d'OKR et de KPI. Hein, les KPI et les OKR du bien-être de l'équipe sont aussi importants pour moi que... ils sont liés, en fait, ils sont corrélés. C'est intrinsèquement, c'est toujours corrélé. Une équipe qui se sent bien, une équipe qui a les boules quand tu pars, ouais, ça a été le cas, et que même toi, tu pars, tu te dis, oh, c'est dur, là c'est dur, eh ben, c'est que t'es pas mal, c'est que ça va bien.
Ouais.
Généralement, ça va bien, ça va de pair.
Et alors ça, du coup, là, on parle depuis tout à l'heure de ton équipe. On va étendre à l'équipe...
Je parle de l'équipe, moi je parle jamais de mon... Tu vois, c'est un truc...
Oui,
pour moi,
mais ce que je veux dire, c'est on parle vraiment de l'équipe design, ouais. Étendons à l'équipe produit et dev. Ouais. Mais il y a toujours une petite question, c'est le marketing, surtout dans les grosses boîtes. Comment ça se passe? Parce que tu vois, chez Litchi, c'était un rebranding, donc forcément, tu as du marketing dedans. Decat, vu la taille de la boîte, Accor, pareil, enfin, ils ont une image de marque à défendre. Comment ça s'intègre alors, dedans?
Je vais être très honnête, moi j'ai eu la chance, alors c'est pour ça, je vais pas donner une solution miracle, je vais être très honnête. Moi j'ai eu la chance d'arriver systématiquement dans des entreprises qui... Le design n'avait pas la bonne place, mais voulait que le design ait la bonne place. Mmh. Et c'est pour ça qu'on fait appel aussi à moi dans ces cas comme ça. Donc, côté Decathlon, j'avais un CPO, Sébastien Agoutier, qui comprenait à quel point le design devait être important et que le design devait dépendre. On est allé recruter Vinnie Hendrix, qui était au Adidas à Amsterdam, qui a repris l'équipe, parce qu'on avait besoin vraiment de quelqu'un de très très fort à terme pour que ça perdure et que ça continue. Aujourd'hui, il est directement attaché à la CEO. Donc, dans l'esprit Decathlon, et parce qu'historiquement, dans la conception de produits physiques Decathlon, il y a cette ambition-là. C'est exactement pareil chez Accor. Myriam Elara, qui est aujourd'hui la senior vice-présidente des marques et de l'UX, elle avait cette notion-là. Elle voulait que le design passe un cap supplémentaire. Donc, elle nous met au cœur. Et donc, quand on te met au cœur et que le marketing, il voit que tu fais partie de... Enfin, il va falloir passer avec toi... Ben nous, on a des très bons rapports avec le marketing et j'ai fait un revamp chez Decat qui va sortir bientôt. On a fait alors je peux pas le dire, mais chaque heure on bosse sur quelque chose et on a fait un revamp chez Litchi. Donc tu vois, et on s'entend très bien avec le market dans les faits. Mais parce que on a pu donner cette légitimité à l'équipe et que cette équipe a pris la légitimité. Et c'est en fait, je fais beaucoup de, j'échange beaucoup avec les équipes, mais avec les autres aussi. Donc on va beaucoup discuter avec le market, on va beaucoup discuter avec le product, avec la tech, avec le business, parce que maintenant on voit de plus en plus entre business et product management, c'est un vrai sujet, donc on est beaucoup dans cette... Mon job il est là aussi, c'est d'aller, vu que maintenant j'ai des résultats, j'ai des OKR avec API, ben je vais discuter avec les gens en fait.
Merci pour cette transition. Comment on mesure ce que tu as mis en place et qui fonctionne? Parce que d'un côté, tu as les OKR de la boîte, ça j'entends,
ouais.
Tu as les OKR liés à la vision, ouais, du design, mais qui peuvent être... adaptés purement à du, ouais, design, ou qui peuvent dépendre aussi des PM, ouais, ouais, de la tech, etc.
Alors, c'est pas facile, hein, c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. On essaie de lier intrinsèquement ce qui va rapporter... En fait, l'objectif de l'impact du design des OKR, c'est quoi? C'est qu'un board, quand il entend parler l'équipe design, ce qu'a fait l'équipe design, il n'y a aucune personne d'un board qui va comprendre ce que c'est l'accessibilité. On va dire les choses comme elles sont. L'accessibilité, le design system, le design ops... ces gens-là, ils ont d'autres choses à faire et on le comprend très bien. Donc c'est comment nous, notre travail, il arrive à arriver jusqu'à eux et dire: ah t'es, on a gagné 35 millions de chiffre d'affaires sur le e-com. Ah t'es, sur le B2B, on a aujourd'hui nos stakeholders qui ont 75% de satisfaction, on avait 30. Donc on va relier en fait tout le travail qu'on va faire sur les parcours, sur les tests utilisateurs, sur l'accessibilité, sur l'intégration du design system. Moi, mes OKR, c'est est-ce qu'on a intégré design system à hauteur de combien de pourcentage? Est-ce que les leads aujourd'hui ont tous des OKR? Est-ce que les leads ont le ressenti d'être au cœur vraiment entre les PM et la tech? Tu vois, c'est toutes ces choses-là, elles influent sur la conversion derrière.
Mais je vais me faire l'avocat du diable. Tu vois, par exemple, un pourcentage d'intégration du design system, c'est un peu bête et méchant comme
ça dépend. Ça dépend de ce que... Mon OKR, c'est pas de dire il faut que 85% des équipes utilisent le design system.
Ouais.
C'est que dans des sujets qui sont à 360, il faut que le design system il soit présent. Tu vois la différence?
Oui, non, mais c'est,
elle est là, en fait.
Je te pose la question exprès. Hein. C'est pour bien comprendre, de se dire... Parce que tu vois, ça pourrait être un truc bête et méchant.
Non,
de
non,
dire
non.
Il faut que 100% des interfaces
sinon,
soient dans le système.
Sinon,
mais tu vois,
on n'en fait qu'un seul et on dit 100% des gens doivent être heureux. Et puis alors, le problème est réglé et alors là, on est OK. Donc non, c'est... c'est... L'idée, elle est là, c'est là où ça a du sens. On définit vraiment des objectifs très clairs et tout ce qui est technique, on le vulgarise. C'est-à-dire l'accessibilité, on va le tourner d'une certaine façon pour que ça soit compris en haut et que c'est de l'impact et ça apporte quelque chose.
Tu fais ça comment d'ailleurs ?
C'est une très bonne question. Alors là, c'est pareil, ça va dépendre des boîtes. Ça va dépendre des boîtes. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de Doctolib, où on avait beaucoup bossé sur l'accessibilité des composants à l'époque, parce qu'il y avait eu une... je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait eu à l'époque, c'était passé, quelqu'un qui était non-voyant.
Et qui essayait l'app et qui disait que
c'était... Voilà, et c'était juste avant qu'on sorte le DS. C'était juste à ce moment-là. Donc là, en termes d'image de marque pour l'entreprise, désastreux. Tout le monde en parle. Donc là, il n'y a plus de sujet, en fait. Tu vois, et à chaque fois, on va le chercher sur ce vecteur-là.
Ouais. Mais tu vois, par exemple, Doctolib, j'ai envie de dire...
On n'est pas parfait, hein. Ils ne sont pas parfaits aujourd'hui.
Ouais, ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas... Prenons un exemple. Doctolib, ouais. C'est du coup très orienté médical, en fait. Ouais. Si tu ne peux pas prendre un rendez-vous, normalement, n'importe qui peut prendre un rendez-vous.
Ouais.
Mais je tire le trait.
Ah oui, c'est
vrai. D'accord, si tu ne vois pas, si ce n'est pas accessible, tu vas dire que c'est une personne qui ne peut pas prendre une chambre.
Ouais, mais on ne raisonne pas comme ça parce que, en fait, justement, comme le design maintenant est au cœur de la stratégie d'une entreprise, la stratégie de l'entreprise, par exemple, chez Accor, sur ces sujets-là, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, dans les hôtels, etc., et tout, on veut que les gens, peu importe leur handicap, puissent vivre une expérience Accor, etc. Donc, ça résonne, si tu veux, en termes d'image de marque énormément. Et Decathlon, c'est pareil. Mmh. Un Decathlon, c'est ultra important pour Decathlon.
Oui, j'imagine.
Donc,
je fais exprès de me faire l'avocat du diable pour...
Rassure tes auditeurs, tu es vraiment pour le
sujet. Non, mais bien sûr, je suis court, mais tu vois, c'est un peu pour pousser, tu vois.
Non, mais voilà, on va aller... En fait, tu vois, on relie à la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a 10 ans, on ne se posait pas ces questions-là. Mmh. Et c'est... On regarde les attentes et la stratégie. C'est pour ça qu'il faut aussi... quand tu construis des choses... Enfin, moi, les missions qu'on me donne, j'y vais pas parce que la mission est proposée aussi. C'est-à-dire que je vais dans des marques où ça a du sens pour moi, très sincèrement. Ça a du sens et c'est un lien avec mes valeurs. Tout n'est pas parfait dans ces marques-là, hein, attention, mais ça a du sens. Et donc c'est ça, c'est que toi tu rentres dans une entreprise qui pour toi a du sens, dont la stratégie a du sens, et tu vas aller côté design, cette stratégie-là globale, on en revient toujours au même truc, hein. Mmh. Cette stratégie globale, tu vas aller l'appliquer, tu vas le mettre sous les vecteurs du design, l'accessibilité, voilà, tous ces sujets, l'expérience en tant que telle, l'homogénéité de l'expérience, voilà, le contenu, la façon dont aussi on va parler, etc. Moi, je développe énormément le content ops et chez Accor, on a une équipe de ouf parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est différenciateur aujourd'hui, énormément.
Et du coup, sur le contenu, c'est une bonne question. C'est pareil, je vais le remettre en lien avec le marketing.
Le marketing,
c'est
ouais.
Comment tu...
C'est pas facile.
Ouais, bah, comment tu fais pour être à la fois sur quelque chose de pratique, utile, que les gens comprennent bien, en même temps véhiculer ouais. La marque, etc.
Ben, après, on a un rôle, c'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation, nous, on est dans le digital quand même, donc on n'a pas vocation à dire que le discours de l'entreprise, parce qu'on est digital, il est partout dans l'entreprise comme ça. Donc il y a des gens qui pondent une stratégie générale sur ce sujet-là, qui sont souvent en marketing. Nous, après, notre idée, c'est de le retranscrire et l'adapter sur le digital. Alors des fois, on a le market qui vient nous voir, bien évidemment, et qui veut sa part du gâteau. Mais on travaille en bonne intelligence, et quand on a prouvé que le discours global, on a su le mettre sur des petits projets, ben on nous croit plus. Et donc là, je ne peux pas le dire, mais on travaille sur des sujets chez Accor en lien avec ça, là, à l'heure actuelle. On a montré notre légitimité, on a encore des choses à développer, mais maintenant qu'on l'a montré, ben on bosse main à la main le market sur des sujets d'ampleur là-dessus. Donc c'est toujours pareil, c'est du... Tu vois, ce petit gain de terrain qu'on a pu faire à l'échelle du design, on essaie de faire pareil avec ces... Et c'est pour ça que ça demande ces compétences-là énormément de collaboration et de se mettre à la place des problématiques du market, quoi. Enfin, moi, j'essaie de me mettre à la place de mes interlocuteurs énormément.
Du coup, j'ai un peu l'impression... On en a parlé avant d'enregistrer, mais du coup, ça veut dire que de ce que j'entends aujourd'hui sur toi, sur le rôle du product designer au sens large, hein, que ce soit content, recherche, etc., c'est de comprendre le business, de comprendre le market, de comprendre les enjeux.
C'est terrible comme métier.
Et pas que de comprendre...
Ah ouais ?
Est-ce que c'est pas un peu un rôle de PM, ça ?
Alors je vais répondre aux deux questions. Déjà c'est un métier qui est devenu très dur, je trouve, le métier de designer, parce que en fait comme on est au milieu de la chaîne, pour qu'on ait de l'impact, il faut être partout et il faut bien le faire et il faut comprendre tout le monde. Donc c'est exigeant comme métier, ouais. C'est dur. Après il y a cette vraie question aujourd'hui entre le rôle d'un product manager, d'un designer, etc. On a effectivement discuté un petit peu tous les deux. Je pense qu'il y aura toujours des product managers et des designers, j'en suis sûr. Par contre, on va demander de plus en plus à nos designers d'être responsabilisés et de prendre une partie du rôle. Tout à l'heure, je disais, en tant que designer, à terme, mon rôle, c'est pas d'être le donneur de vérité au niveau du design, c'est de faire en sorte que le travail d'équipe amène à une vision du design qui est la mienne. Et donc, je pense qu'on en est là aussi entre product management et design. C'est-à-dire que on parle beaucoup d'ownership chez Accor, Myriam elle parle de ça et je trouve ça génial. C'est-à-dire que moi en tant que designer, mon but c'est pas de faire l'expérience et que ça tourne. C'est qu'à un moment donné, les priorisations qui ont été faites, le product manager, le design et sa part à l'intérieur. Donc à terme, est-ce que ce sera une seule ou même équipe? Est-ce que l'IA permettra ça? Le temps nous le dira et nous verrons bien. Mais notre enjeu aujourd'hui, c'est de montrer qu'on n'est pas dans une vision fermée mais qu'on est dans une vision globale. Après, est-ce que en fait, la difficulté, c'est qu'on demande tellement aux gens aujourd'hui sur tous ces aspects-là que je pense que les deux métiers vont quand même perdurer. et que avoir un seul métier là-dessus, ça peut marcher dans une vision qui est très top-down. Alors, je ne vais pas taper du sucre sur le directeur de Airbnb qui avait dit ça, le responsable de... Enfin, le créateur de Airbnb qui avait dit ça. Je pense qu'il avait dit ça pour choquer aussi, c'était un peu l'objectif. Mais il faut vraiment être dans une entreprise qui est très top-down pour que ça tourne, un truc comme ça, quoi, en fait. Je le pense intrinsèquement, voilà.
Ça marche. Si on parle un petit peu de toi, aujourd'hui, là, est-ce que ça t'arrive encore quand même de designer, soit pour le kiff, soit pour aider tes équipes?
Il ne faut pas le dire, mais encore la semaine dernière, j'étais avec une lead à 21h et on avait un truc qui était pas passé, qui était passé sous le radar. Et on dit, mais comment ça a pu passer ça? Et donc, on a regardé ensemble. Oui, ça m'arrive. Après, chez Decathlon, c'était très, très compliqué parce que quand il y a 200 produits, etc., là, ça devient difficile, mais ça m'est arrivé, et c'est important. Et par contre, moi, je passe énormément de temps à pas faire du management juste de est-ce que les OKR sont faits, est-ce que... Non, je rentre dans les problèmes avec les équipes. Je suis pas là pour donner la solution, par contre. Ça, j'essaie de le sortir de... Alors, je suis là pour dire des noms, par contre, à un moment donné, quand on a un niveau qualité qui est pas atteint, etc., ça, oui. Mais je suis pas là pour donner des solutions. Donc ça, c'est encore mon rôle. J'essaie de... Je le fais sur deux aspects. Le premier, c'est que je regarde tout ce qui se fait aujourd'hui, beaucoup sur Figma, etc. Je regarde les dernières nouveautés. J'essaie de me renseigner comme un junior qui débute, avec 15 ans de plus, mais pareil, voilà, les rides, les cheveux en moins, etc. Mais pareil, j'essaie de faire comme je faisais à l'époque. C'est important, parce qu'il faut être sur le terrain et comprendre les gens sur le terrain. J'essaie d'être au plus près sur leurs problématiques. Quand il faut dire des noms, c'est aussi le rôle d'un leader de dire des noms, parce qu'on ne va pas dans la bonne direction, etc., ou que la direction a été mal comprise. Par contre, j'essaie pas de rentrer dans voilà la solution et il faut faire comme ça. On en parlait tout à l'heure, je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Mais oui, je vois beaucoup encore de design. Plus chez Accor que chez Decathlon, en toute honnêteté.
Ouais.
Mais oui, c'est important.
Du coup, tu fais un peu, je sais pas, les design reviews avec de temps en temps.
Alors, par exemple, je vais jamais quand un lead fait une design review, j'y vais pas moi parce que je trouve que c'est horrible pour le lead qui est déresponsabilisé de son job, etc.
Après, tu pourrais juste y aller en tant que spectateur.
J'aime pas trop ça, tu vois, parce que honnêtement, je trouve que ça. Ou alors, quand on fait ça, c'est quelque chose qui va pas, tu vois. Donc, vraiment, encore une fois, là-dessus, je veux pas les déresponsabiliser. C'est un rôle qui est dur, l'idée, donc je veux pas les déresponsabiliser. Par contre, oui, avant, après, ça nous arrive de discuter, d'échanger, de voir ce qu'il en est. Des fois, d'aller voir un designer pour comprendre pourquoi il a raisonné comme ça et d'aller voir lui, ou qu'il vienne me voir. Moi, j'ai toujours fait ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je l'ai beaucoup payé chez Decathlon parce que du coup, il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir. Et il faut être honnête, quand on parlait tout à l'heure du scale, etc. Decathlon pour moi c'était 80 heures par semaine, on va dire les choses comme elles sont, c'était ça aussi, mais ma porte elle est ouverte et ça c'est ultra important, c'est à dire qu'il n'y a personne chez moi qui a peur, ou alors s'il y a quelqu'un qui a peur, il faut le dire demain, là ils écoutent le podcast, ils viennent de suite, mais et des fois j'ai des designers qui viennent voir, regarde Thomas, l'équipe AEM là, regarde le composant qu'ils ont fait côté tech, est-ce que tu trouves normal que je puisse pas faire ça, et donc oui ça m'arrive de, oui parce que j'ai besoin d'avoir des exemples concrets. J'ai besoin d'être au cœur des équipes pour que la parole elle soit aussi entendue. Quoi. Ouais, sinon, t'es trop loin des équipes.
De rester dans le concret.
Ah ouais, c'est important. Et malgré que tu mets un niveau d'organisation pour ne pas avoir à tout faire, parce que sinon t'exploses, il faut un minimum. Ouais. On parlait d'humain tout à l'heure, etc. Aider les équipes à grandir, à avancer, il faut être présent. Et ça dépend des équipes. T'as des équipes qui vont avoir besoin que tu sois présent sur du maquettage. T'en as d'autres qui vont avoir besoin sur d'autres sujets. Voilà, c'est...
Encore une fois, adapter la vision au contexte.
Ah, mais de toute façon, c'est... Encore une fois, je vais me faire taper par Rémi Guyot, que j'adore, qui était chez Tiga, il y a un an, donc qui avait fait Discovery Discipline, qui est un super bouquin. Il le dit lui-même, il le dit que ça, en son bouquin, tu le prends, tu l'adaptes à ton contexte et tu en fais ce que tu peux en faire. Mais c'est... Il n'y a pas de méthode magique.
Je renvoie vers l'épisode où justement il explique tout son bouquin avec Tristan.
Il explique bien mieux que moi et c'est un grand plaisir. J'ai eu la chance de je me suis fait passer un message parce que je ne sais pas s'il écoutera Rémi, mais on a discuté il n'y a pas longtemps. Mais j'ai eu la chance qu'il me manage aussi dans cette période Decathlon parce qu'il était chez nous et donc il manageait chez Tiga. Ça m'a apporté énormément. Quoi. C'est des gens qui sont extraordinaires.
Tu sais qu'il ne veut pas venir dans le podcast.
C'est vrai ?
Ouais, non. Il dit qu'il parle déjà beaucoup trop à côté, donc c'est lui qui m'a interviewé une fois.
Bah écoute, je ferai passer le message. Avec grand plaisir.
J'ai envie de finir sur un dernier point. C'est, tu fais 80 heures chez Decathlon. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien t'es chez Accor.
Ouais.
Mais à côté de ça, tu fais aussi des formations product design et design system chez Tiga.
Alors maintenant, j'en fais moins. Par contre, j'ai fait le contenu, etc. Et je dis, gars, là, on travaille beaucoup sur la CX. Donc, je suis passionné. Ouais, je suis un peu trop. Si ma femme nous écoute aussi, elle le sait. Ouais, j'essaye de. Ça m'anime. Parce que j'ai la chance, en fait, que mon métier m'anime.
C'est moi qui vais te jeter la pierre.
Alors, est-ce que derrière ça, ça veut dire qu'il faut forcément faire ça pour faire. Non, ça, je tiens à le dire, pas du tout. Mais voilà, j'ai la passion de ça, j'arrive à avoir aussi une vie privée et que ça, elle se passe bien, j'arrive à enchaîner les deux, donc chacun a sa propre méthode, sa propre réussite.
Bien sûr. Et juste pour finir sur la formation, du coup, toi, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est... question bête, hein, mais tu vois, qu'est-ce qui est différent? J'ai l'impression qu'on est arrivé en... petit perso, à un espèce de climax pour l'instant, tu vois, du product design, où j'ai l'impression qu'on a atteint, en tout cas, le premier palier où... J'ai l'impression que tout a déjà été dit, ouais. Ou que tout ce qui a été dit est répété. Et ouais. Où il n'y a pas de nouvelles choses, ou en tout cas, est-ce que c'est plus pour s'adresser à des gens qui ne connaissent pas trop, à aider à évangéliser le métier sur des personnes qui en ont besoin, tu vois, qu'est-ce que...
Alors, après, par exemple, nous, c'est aussi ce qu'on est en train de faire chez Tiga, c'est-à-dire que le product design ou même le product management, c'est un peu comme l'iPhone, quoi. C'est un peu la vie de l'iPhone. Tu vois, l'iPhone, premières années... Je fais partie de ces gens qui ont eu tous les iPhones,
okay.
Et qui les revendent chaque année, etc. Donc j'en tire, ça me coûte pas si cher que ça en faisant ça comme ça. Partie de ces gens, je viens d'une petite commune dans le sud de la France, on n'avait pas trop les moyens, et donc des fois, le premier iPhone, j'ai préféré plutôt partir en vacances qu'avoir l'iPhone. C'est honteux, je le dis, mais voilà, voilà. Et donc l'iPhone, les premiers, ils avaient énormément de manques, etc. Mais au fur et à mesure, c'est développé, ça arrive à maturité, comme le product management et le product design. Maintenant, on a l'impression qu'on a le nouvel iPhone chaque année. C'est vrai quoi, on se dit bon c'est un peu mieux.
Des petites optimisations,
c'est pas bon pour la planète. Enfin, on commence maintenant même à. Par contre, on voit que aujourd'hui, même Apple de manière générale, ils ont entre l'iPhone, le Mac, le Vision Pro, etc. Ils ont quand même encore beaucoup de difficultés à avoir une continuité d'expérience entre ces produits-là, etc. Et le design, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a mis 10 ans à rentrer dans les entreprises. On est passé du modèle d'agence à on rentre dans les entreprises, on a une équipe, on la fait vivre et elle a de l'impact de la stratégie. On est encore en cours de ça. À l'échelle des produits, maintenant, le next step, c'est comment ces produits, on arrive à faire vraiment des expériences 360. Et je pense que les 10 prochaines années, elles vont être en lien avec ça. Et tout ce qu'on vient de se dire pendant une heure, le lien, la relation entre les équipes, c'est un peu ça, en fait, si tu veux. C'est un peu ça. Donc je pense que l'enjeu, il est là, des 10 prochaines années, et comment l'IA va nous aider à ça pour qu'on puisse se concentrer sur ce sujet majeur. Aujourd'hui, même des petites startups, elles commencent à avoir 3, 4, 5 produits numériques, tu vois. Ça devient... ça commence à prendre une ampleur d'ouf dans un grand groupe. Pourquoi les grands groupes sont en train de revenir à la pointe de l'innovation? Parce qu'ils ont 200 produits numériques à gérer. Et donc si t'es pas innovant là-dessus, tu fais tout mal, en fait, à un moment donné.
Et quand tu dis que l'IA va peut-être aider à ça, c'est à quoi, par exemple, dans la structuration, dans le fait de
alors,
la maquette à ta place?
J'en parle un peu dans les Rex. On a fait pas mal de tests là. On a fait pas mal de tests chez Accor, chez Decathlon. J'ai vu que côté research chez Decathlon, ils avaient fait des tests dernièrement. Ils y revenaient aussi. Je pense que l'IA, ça va nous aider en tout cas à court terme, moyen terme, sur des sujets où il n'y a pas de valeur ajoutée.
Tu penses à quoi?
Je pense à quand c'est du maquettage industriel, quand c'est de l'UI et donner un sens, un nouveau tone of voice, etc. Il y aura encore des spécialistes de l'UI, ouais. Et on aura besoin de plus en plus de ces gens-là dans ces métiers-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, quand c'est industrialiser certaines choses, etc., je pense que l'IA va s'en charger. Et dans les entreprises où on pense que le design, c'est que maquetter bêtement, c'est l'IA qui va s'en charger, très clairement. Surtout ce qui est aujourd'hui... le lien dans la discovery, la delivery, comment on fait le lien des éléments clés, où l'IA peut nous aider à être un accélérateur, etc. L'IA va arriver, encore que sur la research, l'interprétation de l'IA fait que c'est compliqué. Donc, surtout ce qui est rébarbaratif, et où finalement, on n'apporte pas de l'innovation et de la valeur, je pense que l'IA va s'en charger à terme. Et donc, nous, on va avoir plus de temps, je l'espère, pour se focaliser sur ces sujets-là, sur comment on a de l'impact, comment le design, toujours pareil, encore plus stratégique, etc. Je vois vraiment l'IA comme telle, et c'est pareil pour le rôle de product manager. C'est-à-dire que pour le rôle de product manager, tout ce qui est rébarbatif du rôle de product manager, les US, etc. et tout, je pense qu'on arrivera à terme sur l'industrialisation. Le design system, ça a cartonné pour ça en grande partie, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est ça ce qu'on fait sur le design system.
C'est l'industrialisation. Hein.
Mais ça n'empêche pas qu'il y a des marques qui continuent à innover, etc. Après que oui, là, on est arrivé à un palier. Oui, on est à un palier. Mais là, on a eu la chance de tester Vision Pro, etc. Ça va pas être concluant d'ici avant 2-3 ans. On va voir plus, hein, soyons clairs. Mais t'entrevois une nouvelle façon de voir l'informatique et on va de nouveau innover très prochainement. Donc, c'est des paliers, si tu veux. Ouais. Par contre, l'enjeu, l'IA, ça va nous permettre tout ce qui est pénible, tout ce qui, où on n'apporte pas de valeur, ça va être l'IA à terme qui va le prendre en jeu pour que nous, on puisse continuer à innover. Enfin, j'en suis persuadé.
On verra ça dans quelques années. Quelques mois, peut-être.
Écoute, si j'ai tort, tant mieux. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Si c'est... Ouais. Je l'espère, au fond, quand même. J'espère. Mais j'en suis... on en commence à être convaincu de ça au vu des résultats et de ce qu'on a pu tester sur des produits quand même.
Ah, je comprends. C'est quoi la suite pour toi?
Elle est très difficile cette question.
Tu sens que c'est la question de la fin, histoire d'achever.
Là par exemple chez Tiga maintenant, j'ai beaucoup sur ces sujets de CX, beaucoup sur comment on a des niveaux d'abstraction encore plus haut maintenant, comment on arrive à faire en sorte que tous ces produits communiquent entre eux, etc. Donc ça c'est le niveau supplémentaire. Après, t'as vu mon parcours, t'as vu ma vie, là, si je me projette, je serais bien bête, je sais pas ce qui va arriver. Chaque fois, il y a une nouvelle...
Ça serait une nouvelle opportunité.
Ouais, voilà, ça serait une nouvelle opportunité. À chaque fois, je l'ai prise, peut-être qu'à un moment donné, je la prendrai pas aussi, je sais pas, on verra ce que nous réserve la vie, mais... écoute, non, je pense que c'est... J'essaie de pas me poser ces questions-là. Je suis pas assez vieux encore.
Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet que t'aurais voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, ou une question que t'aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée?
Écoute, c'était... je pense que tu me... Alors, c'était super intéressant, tu m'as posé plein de questions. On parlait du Vision Pro. Ouais. Je ne sais pas si c'est le sujet où il faut parler de ce sujet-là en tant que tel, etc. Mais je trouve que tout ce qu'il y a autour du Vision Pro et tout ce qu'on a pu avoir autour de l'IA ces deux dernières années, c'est symptomatique quand même d'une époque. Et je trouve que dans notre métier, c'est très compliqué. Ça apporte une complexité supplémentaire. Je vais m'expliquer. On l'a vu sur l'arrivée de l'IA, si tu regardais les réseaux sociaux, etc., tout le monde te disait c'est la fin, le métier est remplacé, tout disparaît. Et donc on a quand même tous flippé. Je pense qu'on a tous flippé, on a tous regardé énormément d'articles de grands pontes pour voir si la direction que ça allait prendre, etc. Il y a eu un emballement médiatique insensé sur tout et n'importe quoi. Là, c'est en train de retomber quand même un peu le souffle. Même si on voit les avancées, etc. Vision Pro, ça a été accéléré sur 2 mois. C'est-à-dire que sur Vision Pro, on avait des gens qui marchaient dans la rue avec le Vision Pro, alors que nous, on l'a utilisé, c'est inutilisable dans la rue, bien évidemment, parce que les fenêtres restent à l'instant T. Tu peux les capter, mais c'est n'importe quoi, quoi. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, où il faut faire le buzz. Et nous, on subit ça dans les entreprises aussi. Et on commence à subir ça dans la direction qu'on peut prendre, etc. ou autre. Et ça, c'est un vrai sujet quand même.
Hein, ça me rappelle un peu quand Facebook, il y a 10 ans, avait sorti les chatbots et que ça marchait bif-bof et la crypto.
Ça m'a rappelé complètement ça parce que moi, quand j'étais chez AXA, on nous demandait, on faisait pas mal de chatbots à l'époque, il fallait faire des chatbots. Et donc, on en a fait des design sprints avec des chatbots et maintenant, des chatbots, on en fait beaucoup moins quand même.
Ah ouais, bah...
Et j'ai l'impression que l'histoire se boucle un peu là-dessus. Encore une fois, c'est des sujets qui vont être matures et qui vont arriver. Le Vision Pro, moi, j'en vois vraiment un. Enfin, on a essayé la salle de cinéma avec l'Apple TV. Je l'ai fait tester à des gens de ma famille, à des amis, à des gens qui ont quand même plus de 70 ans. C'est extraordinaire, quoi. Elle était projetée dans la salle de cinéma et elle ne voulait plus aller au cinéma. Elle dit, le cinéma, ça n'a plus d'intérêt pour moi. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est pareil pour l'IA, on le voit arriver. Mais je pense qu'il faut, prendre le temps, il faut avoir du recul. Mmh. Et finalement, dans nos métiers, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi d'avoir du recul de choses. Et plutôt que d'être dans le delivery incessant, se dire, attendez, l'enjeu, c'est... Faisons les choses bien déjà, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces sujets-là, mais tu prendras 100 entreprises, t'en as 95 aujourd'hui, où entre PM, designer, tech et business, les gens s'entendent pas. Quoi. C'est un sujet qu'on traitait il y a 10 ans. Hein. Qu'on a commencé à traiter, si tu veux, à l'arrivée du product management. Quoi.
Qu'on traitera encore après.
Je pense.
Mais pour conclure sur la Vision Pro, tu vois, ça me rappelle un peu l'Apple Watch.
Ouais.
Quand c'était sorti au départ, c'était très luxe et en fait, c'était une montre qui tenait même pas une journée.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est capable de te faire un électrocardiogramme, de pouvoir...
Alors là, je suis... De toute façon, on bosse sur le sujet chez Accor, on va sortir un truc prochainement. Là. Donc moi, je suis conquis par ce que j'ai vu. J'ai été impressionné, je te dis, sur la salle de cinéma, les environnements, etc. La façon intimiste que tu as de traiter l'information, il va falloir repenser complètement le système de fenêtres, parce que dans le Vision Pro, utiliser une fenêtre avec du blanc derrière, etc., c'est pour ça qu'ils mettent les fenêtres en translucide. C'est une horreur pour les yeux, l'information pour la capter avec l'œil, tu n'y arrives pas. Donc il va falloir repenser tout ça, et il y a un avenir sur, sur ça qui est immense. Moi, je suis persuadé. Là-dessus, je n'ai pas de doute. Par contre, on va un peu vite, là. On va un peu vite, et même la technologie n'est pas prête. C'est-à-dire que porter un casque de 600 grammes, en fait, ce n'est même pas le poids du casque, c'est la pression qui t'exerce sur les yeux. Tu ne peux pas travailler avec ça aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Enfin, nous,
je l'ai pas testé encore.
Là, on va s'axer plus nous sur faire vivre une expérience, parce qu'à quoi forcément on a tout ce qu'il faut là. Mais travailler avec, c'est impossible. Enfin, les mecs te disent que je travaille 8 heures avec ça, on doit pas avoir la même vision de ce qu'est le travail, je pense, parce que tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on comprend où ils veulent aller, on comprend le niveau de finition. Il y a le même effet waouh qu'à l'époque de l'iPhone 17 ans auparavant. Par contre, l'iPhone, même avec ses défauts à l'époque, c'était quand même un game changer. Il y avait quelque chose. Là, on n'est pas là encore. Tant que le form factor sera comme ça et le prix, hein, qui est, ouais. C'est pas du mass market aujourd'hui.
Ça finira dans une paire de lunettes. Un jour.
Je pense. Enfin, alors après, je sais pas si technologiquement ce sera faisable, mais oui, effectivement, ça pourra marcher comme moi que si t'as quelque chose de très léger qui puisse t'isoler. Parce que cette façon de pouvoir t'isoler dans un monde, etc. Alors ça pose d'autres soucis. Hein. Faudra pouvoir collaborer entre les personnes, qu'on soit plusieurs, etc. Parce que sinon, on va avoir des gens qui vont être complètement décorés de la réalité. Mais oui, c'est l'avenir. Et il faudra un form factor qui est trois fois moins gros que ce qu'on a aujourd'hui en poids, en taille, etc.
L'avenir nous dira.
Ouais, mais c'est ultra excitant. Nous, on est ravis. On a essayé de on l'a récupéré aux États-Unis. Ça a été tout un tintouin. On a impliqué tout le monde chez Accor pour l'avoir. On était comme des gamins. C'était génial. Hein. C'est super.
Trop bien. Pour finir, est-ce que tu aurais une personne à me recommander, invité dans le podcast?
Ouais, alors j'en ai deux. Je vais remettre. Je vais mettre quelqu'un d'extérieur à Tiga quand même. Je vais faire de la pub, mais pas trop à un moment donné. Si, il est quand même lié à Tiga, parce que en fait, quand je suis rentré chez Tiga, c'est lui qui m'a fait passer l'entretien à l'époque. Mais il a commencé chez X-République, il était chez Tiga, et aujourd'hui, il est head of design chez Disney, c'est Rémi Taïeb. Je sais pas si tu l'as déjà interrogé.
Non.
Rémi qui a une histoire atypique, qui est parti en Australie pour monter une partie de Tiga, etc. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est techniquement extraordinaire dans le métier de design, qui m'a beaucoup appris, qui je trouve et qui chez Disney fait un boulot fou. Donc moi je te conseille vraiment, okay. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et chez nous, là je travaille avec Viviane Nguyen, qui est arrivée très récemment chez nous et qui a bossé chez France TV, chez Renault en tant que design ops, et elle a une expérience sur le design ops qui est fou. Elle fait des choses incroyables chez Accor. Sans elle, j'y arriverais pas. Enfin, donc voilà. Donc, si t'as envie d'aller chercher sur le design ops, d'aller creuser sur le design ops, je te conseille vraiment Viviane, parce que c'est quelqu'un. Déjà humainement, c'est quelqu'un extraordinaire, mais en plus sur ce sujet-là, elle est en béton armé.
Eh ben, trop bien. C'est noté. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que t'as des ressources à nous recommander?
Ouais. Alors, j'en ai quelques-unes. La première, donc moi, je fais partie de ces gens qui sont très très fans du NN Group. Même si c'est old school, même si c'est voilà.
Ah, ça reste très intéressant. Hein.
Je trouve que ça reste intéressant. Et tu vois, tout ce qu'on a, on a parlé de vision, culture, orga, je suis quand même allé le chercher à la base. J'ai vu comment ils avaient bossé, comment ils s'étaient structurés par rapport à ça, etc. Et je me suis beaucoup inspiré de ça. Et je savais pas, ils ont un podcast.
Oui.
Ils ont un podcast et je l'ai écouté, c'est pas mal. C'est pas mal.
J'avoue ne pas l'avoir écouté.
Ils en gardent un petit peu, évidemment, parce qu'il faut payer derrière et tu vas voir les vidéos, etc. Ils sont bons, ça fait partie du nerf de la guerre.
Ils sont bons. Hein.
Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième, alors là, c'est plus design, mais de manière globale. C'est Design Matters, que tu dois connaître, je pense, qui a été l'un des précurseurs sur les podcasts design de manière globale. Je trouve que c'est ultra intéressant dans notre métier. On est toujours à la frontière entre la science et l'art, et d'aller regarder un peu l'art, d'aller regarder là où la science des fois est un peu plus faible et on est plus dans l'artistique, bah d'aller écouter ces profils-là, je trouve ça ultra intéressant, vraiment ultra intéressant.
Trop bien.
Donc je suis plutôt j'écoute beaucoup nos Américains, moi je suis désolé.
Non mais il y a beaucoup de très bons podcasts américains.
Et je trouve qu'ils font un travail, et puis c'est intéressant et c'est souvent un peu en avant sur ce qu'on fait nous, donc c'est quand tu veux voir un peu l'avenir, c'est top. Ça c'est les podcasts, et après j'ai deux petits bouquins. Si ça te va.
Ben oui.
Bon, mais super. Le premier, et ça, je suis désolé pour tous les gens qui ont passé des entretiens chez nous, chez Tiga, chez Decathlon et chez Accor. Je me suis beaucoup inspiré d'un livre pour les études de cas. J'en fais moi maintenant, parce que je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, entre la technique et le mindset, on regarde beaucoup plus l'état d'esprit aujourd'hui. Mais j'ai utilisé un livre qui était de Artyom Dashinsky, qui est Solving Product Design Exercise.
Ouais.
Et en fait, ce livre, le jour où il est sorti, hein, c'était en 2017-2018, je venais rentrer chez Tiga, il m'a animé sur les études de cas. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup inspiré de ce livre-là sur les études de cas.
Okay.
On l'a fait moins dur, évidemment, parce qu'il est quand même il est coton. Mais voilà, cet exercice de whiteboard, etc., on s'est beaucoup inspiré de ça. Et chez Decat, etc., sur des postes importants, on le faisait.
Ok.
Donc il est, je trouve qu'il est top, maintenant c'est un peu désuet, mais il est intéressant quand pour un designer qui veut monter en compétence, se challenger, être en situation de stress, même si l'entretien ne sera pas du tout comme ça, c'est à faire ces exercices-là, c'est intéressant. Il a sorti un nouveau livre, The Path to Senior Product Designer,
ouais.
Où en fait il explique comment grandir petit à petit, de manière générale, etc. Donc c'est l'étape d'après, comment justement ce designer va grandir et devenir senior, expert dans le domaine. Super intéressant, super intéressant. Et le dernier, c'est une pépite qui a 4 ans, je ne connaissais pas, je l'ai vu la semaine dernière, de Aurélie, tu sais la marque de bouquins.
Oui.
C'est Articulating Design Decision. Et en fait, c'est comment on travaille entre designer, product manager, tech, market, etc.
C'est un peu la synthèse de tout ce
qu'on fait. Ouais, mais complètement. C'est, en fait, tu vois, c'est ces trois sujets-là, la technique et le relationnel. Comment on arrive à convaincre, à faire en sorte d'amener les gens quand on est designer. Et il est ultra intéressant, ce bouquin. Je ne l'avais pas vu passer sur le radar. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-le, parce que c'est un... Il est top. Vraiment, il est top.
Très bien. Je pense que j'ai ma prochaine lecture. Très bien, merci beaucoup. Je mettrai dans la description tous les liens vers toutes les ressources que tu as données et tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Dernière toute petite question, si quelqu'un veut te contacter, on les renvoie vers quelle plateforme?
Sur LinkedIn, LinkedIn bien sûr. Oui, non. Alors, je suis sur les deux, mais Twitter X là maintenant, la tournure ça prend.
LinkedIn donc.
Ouais, s'il vous plaît, ouais.
Ça marche. Et ben Thomas, merci beaucoup pour cette heure et demie ensemble. C'était hyper inspirant et ça remet en perspective beaucoup de choses. Donc, je te remercie pour ton temps et puis je te dis à très bientôt.
Écoute, c'est moi qui te remercie parce que c'était super et merci vraiment pour j'ai passé un moment très agréable. Je te remercie.
Super.
À très bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Salut !